Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Denis Charvet. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Le zapping des GG, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. J'ai le PSG, j'ai Roberto De Zerbi qui parle de la démission, ou plutôt de sa non-démission hier en conférence de presse. J'ai un coup de gueule dans le monde du rugby ou encore les frères Lebrun. Bref. Vous me direz si ça vous intéresse ou non, ce sera dans quelques instants. Mais restons sur notre débat. Êtes-vous totalement emballé par ce 15 de France? Je vous propose d'écouter Antoine Dupont qui parle des axes de progression de ce 15 de France.
Sur plusieurs secteurs, je pense, ça dépend des trois matchs de la tournée, mais on parlait de notre jeu offensif. Je pense qu'on peut avoir plus de consistance. On a nos cellules et tout ce qu'on travaille la semaine. On a du mal à le retrouver après le week-end, ce qui est un peu dommage quand on voit les qualités qu'on a, les armes offensives qu'on a. On a énormément défendu sur les trois matchs. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir plus de ballons d'attaque. Sur notre jeu au sol, je pense qu'on peut être meilleur. Sur notre jeu au pied, je pense qu'on peut être meilleur aussi. Mais encore une fois, on gagne les trois matchs. Donc, on peut quand même se savourer et apprécier les trois résultats.
Et voilà, savourer, mais il vous parle de tout ce qu'il y a encore à faire. Hein.
Anthony, l'entraîneur, c'est invraisemblable. C'est une analyse mais incroyable. Non, mais il est
sortir du match, on le rappelle. Hein, c'est juste quelques minutes après. Hein.
Non, mais il est incroyable. Mm. On l'a vu à la mi-temps de la semaine dernière où il parle, il a des mots, mais des mots justes. Il est entraîneur né. C'est, tous les demi-mêlés sont souvent entraîneurs, mais lui, il est déjà...
Est-ce que ce 15 de France est meilleur que celui d'il y a un an?
Ah, il y a un an,
pas alors, forcément. Il y a un an, il est moins bon que celui d'il y a de 2022 quand on fait le Grand Chelem, où là, je pense que la génération Dupont était à son summum. Ensuite, elle a baissé un petit peu de pied, malheureusement, jusqu'à la Coupe du Monde. L'année 2023 a été, le tournoi a été une réussite, mais pas exceptionnelle. Et cette Coupe du Monde a coupé un peu l'herbe sous le pied de cette équipe. Elle est moins bonne qu'en 2022, mais elle a sans doute des axes de progression un peu plus importants. Et je trouve un réservoir bien rempli, parce que tous les jeunes qui étaient les champions du monde des moins de 20 ans arrivent aujourd'hui en équipe de France. Et franchement,
c'est une période charnière, en fait. Il y a des jeunes qui arrivent, qui poussent, qui ont un talent fou. Boudéan, Gazzotti, Gailleton, et puis il y en a plein derrière qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Le centre de Toulouse, comment il s'appelle?
Coste,
qui a un talent fou. Il y a des jeunes qui vont arriver, mais je pense que elle n'est pas meilleure ou moins bonne. Je pense que c'est dans la continuité, en fait. Il me semble, hein, moi, tu regardes les joueurs qu'il y a aujourd'hui qui la composent, c'est pratiquement les mêmes. Hein. À part deux ou trois jeunes qui sont arrivés, que Boudéan s'est imposé.
Oui, mais la question, c'est est-ce que vous êtes encore plus confiant qu'en 2021 quand on préparait la Coupe du Monde?
Moi, je serais confiant sur le tournoi, là, 2025, qui va arriver, parce qu'il va arriver très vite. Premier match le 31 janvier, donc ça veut dire qu'on peut imaginer qu'ils vont se réunir le 15 janvier.
Oui.
Donc il va donner une liste début janvier. Et en fait, moi, ce que j'espère, c'est que là, sur le mois et demi qu'il y a, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Il va y avoir le début de la Coupe d'Europe, le retour du Top 14.
Les terrains durs, le retour d'Entamac.
Voilà, il va y avoir Entamac qui va revenir. Bah, contrairement à Denis, connaissant Galtier, je pense qu'il va remettre Entamac en 10 et il va mettre Ramos en 15. Ça, c'est mon avis. Parce qu'il a toujours prôné la continuité, il lui a fait une confiance.
Ouais, ça a changé là quand même. Il a changé de méthode là, Julien, sur la tournée.
Oui, non,
il n'hésite plus à faire des
tournées.
Voilà, il
ne
fait plus
le
constater.
Absolument, et aujourd'hui,
il a. À la fois un jeune, donc il n'a jamais déçu en équipe de France. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que s'il n'y a pas trop de blessés, qu'il n'est pas obligé de refaire beaucoup de turnover à des postes clés et de travailler dans la continuité de cette tournée de novembre, justement, je pense qu'avec quelques semaines de préparation avant le tournoi et avec les premiers matchs du tournoi, là, l'équipe, ils vont peut-être pouvoir essayer de mettre en place, de rajouter un peu quelque chose, tout ce que parlent les axes d'amélioration dont parle Dupont, ils vont peut-être être capables de le mettre en application sur ce tournoi. Et notamment pour aller gagner et en Irlande et en Angleterre, qui sont vraiment des tests exceptionnels.
C'est les limites de cette équipe aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est limite dans le sens où si tu veux vraiment aller t'imposer en Angleterre et en Irlande, il faut effectivement, comme le dit Antoine, être plus performant offensivement et prendre plus d'initiatives. Ce qui, j'ai l'impression qu'il dit qu'on a été un peu contraint contraint par les adversaires, sûrement aussi, je sais pas.
Mais on peut quand même avoir une forme de confiance. Cette transition là qui s'est passée sur cette Autumn Cup, elle est quand même réussie. Donc ça laisse présager
Il y a plein de positifs.
En fait, ça lui donne des certitudes.
Ouais.
Cette équipe, elle a forcément pris des automatismes. Et comme tu le dis, Julien, si en plus, ces joueurs-là ne sont pas blessés, on peut les retrouver mi-janvier pour le début du stage, les automatismes qu'ils ont pris là, tu les gardes en un mois, tu les retrouves pas dans six mois.
Quand tu vois l'équipe de France, tu as l'impression qu'il y en a encore sous la pédale.
Moi, je sais pas, mais
c'est
mieux.
C'est l'impression que tu te dis, elle peut aller vraiment à un autre niveau et devenir la nation incontournable.
Ouais. C'est quelque chose de rassurant.
Oui, enfin,
je veux dire, c'est positif.
En fait, les lignes arrière, il a quand même beaucoup de certitudes. Sur les avant, je sais pas trop, mais sur les arrières. Aujourd'hui,
je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de certitudes sur ses centres.
Ah bon, bah regarde, imagine là il a Moefana qui fait coup. Imagine un des deux est blessé, il a fait jouer Gaëtan, il a confiance en Gaëtan maintenant, donc il peut le remplacer. Ozel, Penaud était malade, c'est l'un des meilleurs avec Bielbiaré. Villiers est revenu, il a été performant à l'arrière. Il peut faire jouer Ramos, il peut faire jouer Bureau, il peut faire jouer Barré. Il sait qu'avec les trois, ils ont assuré les mecs. C'est des gages de confiance ça pour un staff et pour une équipe.
Mais il y a un réservoir qu'il n'y a jamais eu en équipe de France. C'est vrai, quand tu changes un joueur par un autre, ça ne change pas grand chose. On l'a vu avec Barré hier qui a fait un match incroyable.
Tu secoues l'arbre, t'as 15 de mille mêlés qui tombent quasiment du même
nez. Pour être titulaire au centre de l'équipe de France, ça ne va pas être très fort.
Je suis Fabien Galthié aujourd'hui. Je serais très confiant. Et en même temps, il a du travail. Il a du travail de progression avec une équipe d'une génération qui est exceptionnelle. Donc tous les voyants sont ouverts quand même.
Ok. Et on n'a pas encore parlé de Jalibert. Hein. Est-ce qu'il pourrait revenir en bleu? Ça c'est pas forcément sûr. Hervé nous appelle au 32-16. Bonjour Hervé.
Oui. Bonjour à tous.
Moins dithyrambique, moins enthousiaste que la bande, toi visiblement.
Bah, c'est pas ça, c'est que moi je suis content. La première chose, c'est que l'équipe de France a retrouvé son public. Et je pense que c'est important, parce que derrière, tout le monde avait été quand même très déçu de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un premier point. Je parlais pas de Jalibert étant supporter de l'UBB. On va le laisser tranquille aller à Vannes, reprendre tranquillement et faire l'hiver dont on a besoin en club. Par contre, je suis désolé, j'essaie de regarder avec un œil un peu plus reculé. Aujourd'hui, mis à part un tournoi qu'on a gagné il y a 2-3 ans, on n'a pas gagné, quoi. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que, oui, très bien, on a augmenté notre niveau de jeu, oui, on est beaucoup plus plaisant à voir, mais je veux des titres. Moi, je voudrais qu'on fasse un bilan à la fin du tournoi cette année, le tournoi qui arrive, et si on est capable de gagner 3 fois à l'extérieur et qu'on est capable de s'imposer en Europe, dans ce cas-là, pouvoir...
Sur ce que tu as vu, est-ce que tu penses qu'on peut figurer dans le tournoi, aller gagner le tournoi, voir le Grand Chelem?
Mais je crois qu'Hervé, il n'a pas envie d'être champion du monde des matchs amicaux.
On peut,
je suis d'accord avec Hervé, il faut gagner les tournois.
Julien Bento a clairement expliqué et exprimé les choses qui étaient vraiment pour moi évidentes. On a été très bon il y a 3-4 ans où on survolait tout le monde. On a eu un creux à la Coupe du Monde, c'est assez vrai. On fait pas les tournées à l'extérieur. Les matchs de légende, ils se sont faits en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, etc. On les joue pas l'été. Et derrière, on gagne à domicile, c'est le minimum. Mais si on perd contre la Nouvelle-Zélande là sur la série, qu'est-ce qu'on dit après? On ne sait pas.
Oui, mais tu n'auras pas de référence, parce que tu n'auras que des joueurs, tu n'auras pas les joueurs premium. Donc, cette tournée en Nouvelle-Zélande n'aura aucun intérêt, si tu veux. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec Julien. Je pense
on
que
découvre
c'est
des jeunes. C'est bien, mais derrière,
c'est grave de ne pas aller jouer avec les premiums en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est sûr que.
Mais c'est dans l'adversité, dans n'importe quel sport. Vous êtes tous des sportifs de haut niveau, c'est dans l'adversité. On a gagné la Coupe Davis dans l'adversité. On a gagné au foot. Rappelez-vous, on était champion du monde des matchs amicaux. On a été champion du monde et à partir de là, on s'est positionné différemment. La France a besoin de titres au rugby, quoi. À un moment donné, on donnera du crédit véritablement à Fabien Galthié qui a une quantité de joueurs incroyables de talent dans tous les clubs. On lui donnera véritablement la médaille quand il aura véritablement gagné des titres.
Et ben voilà, c'est dit.
C'est ce que j'attends.
Eh ben merci beaucoup Hervé pour ce témoignage. Reste avec nous à partir de 11h, on reparlera du 15 de France, on se demandera si cette tournée d'automne a fait oublier, elle était catastrophique du 15 de France et cette tournée en Argentine, voire plus largement cette année 2024. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai envie de clore ce débat là ce matin avec cette phrase de François qui nous envoie un petit message via le Direct Studio qui me dit la vraie performance, c'est d'avoir gagné un test match en pleine semaine de Beaujolais nouveau. Bravo les rugbymen. Un peu du monde
ça jamais goûté. De mal.
Bravo François. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG avec beaucoup de choses à vous dire, le PSG, l'OM ou encore les frères Lebrun. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h46, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. Restez bien avec nous à partir de 10h. Nous allons revenir sur les adieux de Raphaël Nadal. Vous me direz si ça a été réussi ou non. Et puis on se posera plus largement cette question de savoir si une légende peut réussir ses adieux. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
L'actualité de la semaine de ces dernières heures, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner. C'est les frères Lebrun en finale du double au Japon. On s'en fout pas. Denis Charvet.
Non, je m'en fous pas.
Julien Beneteau.
On s'en fout pas.
Sarah Pitkowski.
On s'en fout pas.
Ok, Christophe Cessieux.
J'adore les frères lunettes.
J'adore les frères lunettes. Très bien. Alexis et Félix, donc les frères lunettes. Les frères Lebrun se sont qualifiés hier pour la grande finale du double des finales du circuit WTT au Japon. La grande finale aura lieu ce midi, midi 45. Une grande première dans l'histoire du ping français. Les frères Lebrun affronteront la redoutable paire japonaise Shinozuka Togami. En jeu, la place de numéro 1 mondial. On retrouve sur place au Japon Léna Marjac. Bonjour Léna.
Salut JC, salut à tous.
Mais c'est vrai que ça peut être encore un grand moment pour le ping français.
Oui, parce que c'est une finale pour entrer tout simplement dans l'histoire. Alors déjà, en devenant la première paire française à remporter le WTT Finals, donc c'est un tournoi qui regroupe les 8 meilleures paires de double de la saison. Et en finale tout à l'heure, donc Félix et Alexis seront opposés au duo japonais Suzuki Togami et Hiroto Shinozuka, classé 6e paire mondiale. Des joueurs que les Français ont rencontrés il y a quelques semaines, c'était en Chine, et les Lebrun s'étaient imposés. Alors évidemment, Alexis a envie d'aller chercher une nouvelle belle victoire aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, super excité de jouer une finale ici, ça va être la finale des finales, donc c'est super cool de pouvoir jouer ça en double ensemble, et on espère qu'on va pouvoir faire un aussi bon match que contre ST et Flo pour aller chercher ce titre. On produit un très bon niveau depuis un petit bout de temps, donc c'est cool, et j'espère que ça va continuer pour la finale. Ce serait super cool de finir cette année incroyable par un nouveau titre. C'est vrai que 2024, c'était une année vraiment folle pour tous les deux, et si on peut la finir en beauté comme ça, ça serait incroyable.
Et une saison folle, ça c'est vrai, médaille olympique, titre européen en simple pour Alexis, mais aussi en double avec son frère, et puis la victoire historique de Félix au WTT Champions de Montpellier, l'équivalent d'un Masters 1000 au tennis. Alors une dernière victoire ici conclurait de la meilleure des manières cette saison extraordinaire, surtout que les deux frères pourraient marquer encore plus l'histoire du ping tricolore s'ils s'imposent tout à l'heure. Ils deviendraient numéro 1 mondiaux en double homme, et jamais, jamais une paire française n'a atteint ce classement dans l'histoire.
Merci beaucoup Léna Marjac en direct du Japon, cette grande finale, c'est à 12h45, c'est à suivre évidemment sur RMC. Juste une observation rapide, ça fait 3 mois maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés, on s'est dit bon, certains champions vont retomber un peu plus dans l'anonymat. Les frères Lebrun, on en parle chaque semaine.
Ouais, parce que chaque semaine, ils font des choses exceptionnelles et qui font des choses qui n'ont pas été faites dans leur sport en France.
Là, c'est les premiers, mais c'est parce qu'on le diffuse aussi, c'est-à-dire que... Oh. Il y a les résultats, mais on les médias ont commencé aussi à les suivre, on voit leurs matchs, et donc il y a un cercle vertueux qui fait qu'aujourd'hui le ping devient un sport à suivre.
Mais Julien, toi qui étais un spécialiste du double, ça doit te faire drôle de voir que le ping-pong, on parle de joueurs.
En fait, c'est marrant, parce que pendant le sujet, c'est ce qui est en train de me dire. En fait, ils sont l'équivalent de nous, ce qu'on appelle le Masters.
Oui.
Ils sont en finale du Masters. Il n'y a jamais une paire française qui a gagné le Masters. Nous, Herbert Mahu, moi, j'ai eu la chance de faire le Masters une fois, on sait que c'est exceptionnel, mais j'ai fait que demi. Eux, ils peuvent devenir numéro 1 mondial de la spécialité. En plus, le double au tennis de table, c'est une discipline à part entière.
Le double, il est quand même en dessous au tennis.
Dans les pays anglo-saxons, non.
C'est moins considéré.
Les Anglais, les Australiens, non. Mais en France, oui. Et donc, ce qu'ils font, ils sont en train de banaliser l'exceptionnel.
C'est à suivre sur RMC, mais également, si vous voulez les voir, les admirer, les frères Lebrun, c'est sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, également la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est à 12h45. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le coup de gueule de Christophe Lossuc, l'entraîneur de l'UBB. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe,
je ne m'en fous pas du tout.
Bon, j'ai pas suivi, donc je passe mon tour.
Tu passes ton tour.
Oui, j'ai un peu plus suivi que Sarah, mais moi-même Christophe.
Ok. Je vous demande pas si vous avez suivi, je vous demande si ça vous intéresse.
Je vais écouter Christophe.
J'ai lu l'équipe aujourd'hui, donc j'ai suivi.
Alors c'est à propos de la décision de la Ligue nationale. De rugby, s'il vous plaît, je reprends la main. Ne parle pas sur mon lancement, sinon tu vas vraiment pas suivre cette information. C'est à propos de la décision de la Ligue nationale de rugby. Vous le savez, ce week-end, c'est un week-end de doublons avec le 15 de France, le top 14. Et les joueurs qui ont joué hier ne peuvent évidemment pas jouer avec leur club. Ça, c'est normal. Ce qui l'est moins, ce sont les 5 joueurs réservistes privés, donc de jouer ce week-end avec leur club, comme Maxime Lucu pour l'UBB. Je vous propose d'écouter Christophe Lossuc hier en conférence de presse.
Je trouve un peu fort de parler de manque d'équité, en sachant qu'on est quand même lourdement impacté par ces doublons. Les doublons qui sont quand même une particularité du rugby français. Donc le problème d'équité, il est quand même tous les ans bafoué dans le rugby français. On n'a juste pas le droit de faire jouer des joueurs à nous, qui sont salariés chez nous, alors que l'équipe de France nous les a libérés. En quoi le fait de faire jouer Max Lucu ou Max Lamotte avec nous pénalise l'équipe de France ? C'est complètement aberrant. Pour moi, c'est complètement aberrant, mais il y a encore visiblement des choses à la LNR qui fonctionnent et qui prouvent que la LNR n'est pas un organisme complètement indépendant et qui prend ses décisions comme un grand garçon.
Ça y est, on est reparti pour la guéguerre entre le 15 de France
non,
et les clubs.
Non, mais la décision qui a été prise par la LNR et sans doute en accord avec l'équipe de France, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est-à-dire que Lucu, il a plus joué depuis un mois avec son club en équipe de France. Il a fait que des entraînements et là, alors qu'il est dispo et qu'il a sans doute et qu'il est plein d'énergie, on décide de ne pas lui permettre de jouer, tout comme Aldrit, tout comme les autres. Mais encore ceux qui ont joué 2-3 matchs de cette équipe de France, pourquoi pas? Mais des joueurs comme ça. Et quand on parle de
oui, mais ils ont mis en place un règlement.
D'équité. Mais l'équité pas, avec quoi? Je veux dire, l'équité, Toulouse qui donne 12 internationaux, Bordeaux qui en donne autant par rapport à d'autres clubs. Bah, l'équité, elle n'est pas respectée non
mais
plus.
Mais tu crois que Toulouse est content?
De pouvoir récupérer.
Non, mais moi, je comprends ce coup de gueule, parce que je ne comprends pas l'inverse, moi. Je comprends pas pourquoi on ne les libère pas. Voilà, donc lui, il se dit impacté parce qu'effectivement, il hormis, il manque ses joueurs qui sont disponibles. Je ne sais pas pourquoi on ne les libère pas. Moi, je n'ai pas de réponse de la part de la Ligue et de la Fédération. J'aimerais bien avoir une.
Mmh. Ok, donc c'est un quoi qu'à gérer, ça. Peut-être pour
la prochaine fois. Sur les réservistes, je crois qu'ils sont vachement sur le temps de jeu, etc.
Oui,
etc.
Voilà. Oui,
mais bon, là, ils sont réservistes, ils n'ont pas joué. Ils ne sont même pas sur la feuille de match. C'est-à-dire qu'au dernier moment, ils peuvent rentrer s'il y a un blessé à l'échauffement. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas joué de la semaine, ils ont une semaine de repos entre guillemets avec de l'entraînement, donc ils sont aptes physiologiquement et physiquement.
Dernier match de Lucul, 2 novembre. Ça fait 21 jours qu'il n'a pas joué. 3 semaines, c'est quand même énorme.
À jouer, effectivement, comme dit Denis, il faudra avoir une réponse. Il doit y avoir certainement une raison de la part de la fédération ou de la part de la Ligue.
Moi, je pense qu'ils ont mis en place un règlement, tout simplement, et que ce soit Pierre-Paul Jacques.
Mais peut-être que ce règlement pour un dernier match de tournée peut être à revoir. Pour le deuxième match, on pourrait s'attendre à ce que les joueurs restent avec le 15 de France et que ne puissent pas jouer avec leur club. Pourquoi pas, mais le dernier match.
Mais c'est pas un couac. Je crois qu'ils vont s'entendre, ils vont arriver.
Ou alors tu décides de décaler un peu la journée de top 14 au lieu de la faire le samedi. Tu la fais toute le dimanche.
Mais non, tu les fais jouer le dimanche.
Mais oui, mais
tu le sais très bien.
Alors tu trouves des solutions. Ils en trouvent jamais.
Voilà. Allez, rapidement, un dernier petit son à vous faire écouter, c'est Roberto De Zerbi qui ne compte pas démissionner. On s'en fout pas, Christophe.
Je m'en fous.
Ok. Ça rapide que ça.
Idem.
Ouais.
Ah, même toi, tu t'en fous.
Ouais, c'est bon. Je m'en fous. Je n'ai pas démissionné. Oh,
voilà, vous voulez pas écouter Roberto De Zerbi, c'était incroyable hier.
Parce qu'il a dit qu'il n'avait pas démissionné du Shakhtar Donetsk quand Poutine a balancé les bombes. Et que là, il va rester à l'OM. Il
manquerait plus que tu nous fasses un débat sur Nasser et Luis Enrique derrière.
Il a signé pour un projet de 3 ans, 11 journées de championnat, il va démissionner. Restons sérieux.
C'est les guignols.
Allez, tu repars avec tes billets, tu rentres à la maison.
Je vous donne une autre information. Sachez que le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 hier face à Toulouse. On repart. On parlera du PSG à 10h30, donc restez bien avec nous. Et puis, dernière information à vous donner. Là, je ne vous demande pas si ça vous intéresse, mais ça vient de tomber. C'était tôt ce matin, le Grand Prix de Las Vegas. Sachez que Pierre Gasly a terminé 3e.
Qui est en pole position?
C'est Russell en pole position.
Il est dans l'oreillette.
Verstappen est devant Lando Norris. Le Grand Prix, c'est demain matin à 7h. Je vous donne toutes les informations. Je suis béton sur le sujet. Vous pouvez y aller. Et monsieur, je n'ai pas d'oreillette, je n'ai qu'un casque. Ce qui change tout. Voilà.
C'est-à-dire qu'il a deux oreillettes.
En tout cas, Pierre Gasly et les Alpines pour cette 3e place des qualifications.
Deux Herbis, des super.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Une légende peut-elle réussir sa sortie? On se posera la question. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Très heureux d'être avec vous. Bon réveil. On vous accompagne évidemment toute la matinée avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Julien Beneteau et Denis Charvet. Dans quelques instants, les adieux de Raphaël Nadal. On s'attendait à une semaine de folie en Espagne. Nous n'avons eu qu'une seule journée. Une légende peut-elle réussir sa sortie? On ne changera rien. Même en cas d'élimination précoce en Ligue des Champions, Nasser El Khelaifi ne veut pas toucher à Luis Enrique. Bonne ou mauvaise stratégie, ce sera sera la punchline à 10h. Et puis 10h45, les GG contre-attaquent. Mais GG, vous pouvez prendre les commandes de cette émission. Vous nous proposez un débat soumis au vote sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. À vous de convaincre évidemment l'Assemblée, à vous de convaincre les auditeurs. Celui qui remporte le plus de suffrages viendra exposer sa problématique. Christophe, tu veux parler de quoi ?
Je me pose la question de savoir si le calumet de la paix a vraiment été signé entre la France et l'Argentine hier. L'hymne d'Argentin n'a pas été sifflé par le public du Stade de France, mais sous les cendres, les braises ne sont pas encore tout à fait froides. Je vais vous parler d'un sélectionneur de l'équipe de rugby Argentine à 7 qui a balancé sur Antoine Dupont. On n'a pas le droit de balancer sur Antoine Dupont.
Eh oui, ça ne touche pas que le football, cette rivalité France-Argentine aussi en rugby. Sarah, tu veux parler de quoi ?
Eh bien, en début de semaine, mardi très exactement, on était à 100 jours de la fin des Jeux Olympiques. Et je voudrais qu'on se pose la question. Alors non, je voudrais qu'on se pose la question, savoir si on peut être encore fiers de nos Jeux Olympiques, parce qu'aujourd'hui on en est au bilan et aux conséquences. Il y a ce fameux grand mot qu'on nous a bassiné pendant de nombreuses années, l'héritage des Jeux Olympiques. Où en est-il ?
La politique. Ok, très bien, bravo, très bon débat Sarah, Christophe aussi, il va falloir faire fort les copains.
Denis. Moi je suis un peu naïf, mais j'ai beaucoup aimé l'annonce du projet du PFC par Antoine Arnaud. Voilà, tout est beau, tout est bien posé, avec pas l'ambition de gagner la Coupe d'Europe. Mais bon, moi j'ai bien aimé.
Ok, le projet sain, ça t'a plu ?
C'est intelligent.
Ok, t'as envie d'en parler. Parfait, Julien Benneteau.
Ben moi, c'est un rapport parce qu'il y a un fil conducteur dans mon émission quand je la prépare.
Par rapport au sujet de 10 heures,
les gens peuvent-ils réussir leur sortie ? Il y a deux légendes et c'est de saison en plus parce que la neige arrive et le ski reprend ses droits. Il y a deux légendes du ski, Marcel Hirscher et surtout Lynn Seven, qui vont revenir et qui sont déjà revenus. Et je voulais savoir ce que ça vous inspirait, ces retours. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous avez de l'espoir ? Est-ce qu'ils peuvent gagner ces grandes légendes qui ont arrêté et qui reviennent ?
T'as bien fait d'en parler parce que ça sera pas retenu.
J'ai jamais gagné. Mais si, on sait pas.
Non, j'ai jamais gagné une contre-attaque. Je compte rester là-dedans.
C'est à vous de jouer, les auditeurs. Maintenant, ce sera à 10h45. Vous pouvez voter tranquillement sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Anne Hébert a dit un jour, il ne faut jamais dire adieu. Ça porte malheur.
RMC, le bras de fer GG.
Et c'est fini, c'est fini. Un coup droit qui sort très très loin. Et Rafa Nadal s'incline face à Sacha Zverev à l'issue d'un énorme match. Mais c'est une défaite en 3-7. J'ai envie de dire défaite héroïque, mais il est tombé sur plus fort que lui.
Ça fait 5 ans que tu te prends pour un con.
Pas de podium pour Rafael Nadal et je le surveille parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit quitter le court Philippe Châtrier. Est-ce qu'il y pense dans sa tête ? Je sais pas. En tout cas, il s'arrête, il va vers le centre du terrain, il salue la foule.
Il y a 20 ans, t'étais le meilleur, le king, le top.
Et c'est un ace ! Oh le mec ! Il est à genoux, Rafa Nadal ! Il l'a fait ! Incroyable démonstration de puissance, de tout. C'est le plus grand terrien de tous les temps.
Et tu crois que c'est facile d'être top tous les jours ?
Allez, deuxième balle. Elle est dedans. Retour de Nadal. Il est profond. Il est débordé Nadal. C'est fini ! C'est fini ! C'est peut-être la dernière fois qu'on voit Nadal sur un court de tennis. Peut-être. En tout cas, il n'a pas pu apporter le poids de la victoire. Nadal. Paris perdu, défaite 6-4-6-4 face à Botic Van de Solschoot.
Mardi soir, tard, très tard, Rafael Nadal a dit adieu au tennis dès les quarts de finale de la Coupe Davis. Des adieux précipités. L'Espagne s'attendait à une semaine de folie à Malaga autour de son champion. Elle n'aura eu qu'une journée. Rafael Nadal a fait son âge pour le dernier match de son immense carrière. Son oncle, Tony Nadal, n'a pas aimé l'hommage rendu à son neveu après le double perdu par l'Espagne. Est-ce qu'il a été à sa hauteur ? Non, c'était émouvant, mais j'aurais juste aimé quelque chose d'un peu différent. Une légende peut-elle réussir sa sortie ? Dans le coin gauche, la team oui, Julien Benneteau, Christophe Cessieux. Dans le coin droit, la team non, Denis Charvet, Sarah Pitkowski. C'est donc un 2 contre 2. Avant de débattre, on vous a évidemment consulté sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Je vais vous donner une première estimation dans quelques instants, mais nous retrouvons notre spécialiste tennis, évidemment, qui commente à la perfection le tennis sur RMC, Eric Salio. Salut Eric.
Buongiorno a tutti.
Arrête avec cet italien. Pourquoi tu parles italien comme ça ?
Parle espagnol au moins.
L'Italie est en train de...
Buenos dias.
De rouler sur le tennis, c'est
exactement.
Ça
exactement.
Ouais. Ok. Les amoureux du tennis...
On va peut-être en tirer des conséquences, non ?
C'est pour ça qu'il m'a dit que l'Australie allait battre l'Italie, mais bon, pas grave.
Eric, revenons à nos moutons. Les amoureux du tennis avaient fantasmé ce moment. Il a un peu fait pchit, hein, ce moment.
Oui, pchit presque à tous les niveaux. Hein. D'abord parce que David Ferrer, le capitaine espagnol, a voulu titulariser Rafa Nadal en simple face à un joueur, Botic Van de Sanchoup, certes peu connu, mais quand même, qui avait battu Carlos Alcaraz à l'US Open. Rafa, tu l'as dit, il a affiché sa lenteur, ses insuffisances. Presque normal après tant de mois sans compétition. Et lorsqu'il s'est présenté en conférence de presse vers 20h, au fond de lui, il se doutait qu'il ne refoulerait plus un court de tennis.
Si j'étais le capitaine, probablement que je ne me sélectionnerais pas pour la suite s'il y en a une, mais ce ne sera pas ma décision. Finalement, c'est probablement mon dernier match si on ne sort pas. Vous savez, j'ai perdu mon premier match de Coupe Davis en 2004 et j'ai perdu le dernier. On peut dire que la boucle est bouclée.
À ce moment, il espérait encore aider ses potes à conquérir la qualification pour les demi-finales. On l'a vu se lever pour encourager Carlos Alcaraz dans le deuxième simple. Et quand Carlitos égalise, il ne pense pas à son destin personnel. Il croit toujours à la victoire collective. Mais le double décisif bascule en faveur des Néerlandais avec un cool-off exceptionnel. Et quand Marcel Granollers est mitraillé sur la balle de match, Rafa Nadal est comme interloqué. Il est minuit 2. Sa carrière de joueur vient de s'arrêter alors qu'il n'était même pas acteur. C'est ensuite l'heure d'une petite cérémonie que les ordinateurs imaginaient mettre en place dimanche. Pendant près de 15 minutes, Nadal tient le micro avec un flashback sur le môme qu'il était.
J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme d'une bonne personne venant d'un petit village de Majorque. J'ai eu la chance de grandir dans ce village, entouré d'un oncle entraîneur de tennis et d'une famille qui m'a soutenu à chaque étape de mon parcours. Je suis simplement un enfant qui a suivi ses rêves et a travaillé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Beaucoup de gens s'investissent et font de leur mieux chaque jour, mais j'ai eu l'opportunité de vivre des expériences inoubliables grâce au tennis. Au final, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de bien, un gamin qui a accompli bien plus que ce qu'il avait jamais imaginé.
L'émotion le saisit à la diffusion d'un clip qui voit défiler sa carrière et dans lequel Serena Williams, Roger Federer et Novak Djokovic lui glissent quelques mots. Mais le Suisse et le Serbe, ses plus grands rivaux sur le circuit, brillent par leur absence à Malaga. Finalement, aucune image forte ne se dégage, contrairement aux adieux de Federer il y a 2 ans. À Londres, on se souvient tous du cliché mythique de Roger et Rafa en pleurs se tenant par la main. À Malaga, c'était très light. Trop light, peut-être.
Et tout de même les Rafa, nous allons en débattre, parler de cette cérémonie d'adieu, mais également plus largement se demander si une légende peut réussir sa sortie. Nous vous avons posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Et pour vous, je suis très étonné, absolument pas de débat. Pour vous, c'est oui à 80%, non à 20%. Donc le camp du non, représenté par Sarah et par Denis, c'est vous qui allez commencer. Denis, pourquoi non? Pourquoi une légende ne peut pas réussir sa sortie?
D'abord, ça veut dire quoi réussir sa sortie? Parce que une légende, ça reste dans l'histoire, ça reste dans l'histoire de son sport, dans l'histoire tout court. Mais réussir sa sortie, ça veut dire quoi? Bon, tu me parles de Federer, Eric. J'ai trouvé grotesque la sortie de Federer. Si tu me dis, explique que la sortie de Federer, quand il fait son grand carnaval avec ses pleurs avec Federer, avec Nadal, moi j'ai trouvé ça horrible. Donc j'ai dit non, elle peut pas réussir. Mais quelque part, la sortie de Nadal, je l'ai aimée. Parce qu'elle est sobre, que en fait il dit des choses extraordinaires, parce qu'il dit je vais pas partir un an en exhibition parce que moi j'ai pas l'ego pour. Donc ça veut dire qu'il reste ce qu'il est vraiment.
Tu as préféré la fin réaliste de Nadal,
mais non,
avec l'incertitude de sport plutôt que la fin fake de Federer.
Bien sûr, parce qu'en fait, attends, je vais finir. En fait, un champion il sort par la porte qu'il peut. C'est Jean-Pierre Rive qui disait moi je suis sorti par la porte de l'infirmerie. Mais c'est la vérité. J'ai pris quelques champions, Jordan, Ali, Tyson Woods. Ils sont sortis comme ils ont pu. En fait, tu choisis pas pour moi.
Woods, il est pas sorti encore.
Oui, mais enfin bon,
oui,
il est pas sorti.
Mais
bon,
quasiment,
c'est pire. Mais voilà, donc quand tu réfères au grand champion de l'histoire du sport, je suis désolé, tu choisis pas vraiment ta sortie. Mais Federer, il a pas vraiment choisi. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Il était blessé.
Federer, il a choisi sa.
Le problème des sportifs de haut niveau, c'est qu'ils ont toujours l'impression qu'il va y avoir une dernière danse fabuleuse et qu'ils vont rester toujours au sommet de ce qu'ils sont. Et ils sont toujours poussés à aller jusqu'au bout, faire le comeback de trop ou faire le comeback de trop. Il y en a tellement qui ont fait le comeback de trop. Donc, ça demande quand même de prendre sur soi, d'arriver à analyser la situation, d'arriver à se
mais motiver. Mais lucide pour... quand tu es
mais il y en a certains qui l'ont réussi.
Non, mais il y a déjà un souci.
Celui qui est le plus grand sportif, pour les Américains, le plus grand sportif de l'histoire, Michael il s'appelle Jordan. Michael Phelps. Eh bien, Michael Phelps, il est sorti avec une 23e médaille d'or consécutive aux Jeux Olympiques.
C'est l'exception qui infirme la règle.
David Douillet, c'est quoi? C'est une exception aussi, David Douillet, pareil.
C'est des exceptions qui infirment la règle.
Ah oui, mais c'est
des exceptions. Oui,
mais
ça,
mais tu me demandes des
la
exemples, mission. Je t'en donne deux là.
Oui, moi je vais t'en donner d'autres.
Non, mais la question c'était une légende peut-elle réussir sa sortie? Je t'en donne deux, donc maintenant t'as faux. Voilà.
Non, mais je rêve. Sachant aussi que David Douillet, et ça peut être l'axe de notre débat, c'est ce que tu disais aussi, mon cher Denis, c'est que David Douillet, il aurait aimé continuer.
Exactement.
Mais son corps l'a lâché.
Il a réussi à aller jusqu'au bout.
Ça, c'est vrai.
Zidane, il est passé à un doigt de la plus grande sortie de l'histoire. Il avait fait un comeback extraordinaire. Il réussit une Coupe du Monde incroyable.
Mais c'est un bon exemple parce qu'il a raté
complètement. Et pour rien du tout,
est-ce qu'il n'a pas réussi justement sa sortie sur une finale de Coupe du Monde?
Mais non, il n'a pas réussi du tout.
C'est l'image qui restera.
C'est pas une image positive.
Donc Christophe, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mission impossible, c'est-à-dire que selon toi, réussir sa sortie, ce serait de choisir le bon moment, le bon endroit, et d'avoir anticipé le résultat. Mais c'est quoi le sport? L'incertitude du sport? Tu choisis pas quand tu vas gagner ou quand tu vas perdre.
Si
ils sont champions du monde, pour toi, à partir du moment où ils gagnent, ils réussissent à sortir.
Si mais
le résultat, le sportif par définition ne peut pas avoir la décision finale sur le résultat sportif. Nicolas Karabatic, la sortie idéale, elle aurait été quoi? De finir à Paris et champion olympique. Et pour autant, il rate sa sortie. La difficulté.
Mais tu rates ta sortie parce que tu veux toujours un peu plus prolonger.
Mais
une dernière échéance.
Donc tu ne sais pas t'arrêter.
C'est ça le problème, c'est que la plupart ne savent pas s'arrêter.
Ça dépend où tu places la fin de la carrière.
Ils sont arrêtés au niveau du sommet.
J'en tiens pas rigueur à tous ces mecs-là qui ont peut-être, sauf à certains, je veux dire, quand tu vois Tyson qui revient sur les cours, moi j'avais de la peine pour lui la semaine dernière. Quand tu vois Woods qui revient sur les qui marche presque, il lui faut des béquilles pour arriver sur les greens, je trouve ça triste. Quand tu vois Ali qui dispute ses derniers combats et qui est déjà Parkinson.
Christophe, t'as un exemple aujourd'hui.
Donc il faut savoir s'arrêter.
Teddy Riner, par exemple, il y a quel âge Teddy Riner?
Teddy, j'ai peur qu'il fasse le goal.
Voilà,
le
donc Teddy Riner, c'est l'exemple même du sportif, il ne sait pas s'arrêter.
Ouais.
Et tu le dis, mais je pense que le sportif, il n'est pas capable de s'arrêter.
Ok.
Je pense qu'il est rattrapé toujours par une blessure
ou par
autre chose.
Parce que tu le sais, toi, tu as écrit un bouquin là-dessus sur la fin de la carrière. C'est une petite mort. Et évidemment, tu n'as plus ni l'adrénaline, ni les sous qui vont avec. Forcément, tu as toujours envie de continuer. Donc.
Sarah termine et après Julien. Sarah.
Oui, je reviens toujours à cette histoire que pour moi c'est une mission impossible. Ça dépend où on place la fin de sa carrière. Est-ce que la fin de sa carrière, c'est une petite mort? Comme ça arrive à de nombreuses personnes.
À 99%.
Exactement. Ou à un moment, c'est-à-dire que tu as déjà pris du recul sur toi-même, sur ce que tu es. Parce qu'un sportif, c'est pas quelqu'un qui va au travail de 9h à 18h ou de 9h à 20h. Tu es sportif et athlète de haut niveau, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Donc, si tu le places du côté de 99%, de fermer la dernière page du livre, une petite mort, ou tu la mets, c'est une seconde carrière. J'ai eu ma première carrière sportive et je vais évoluer dans un autre univers. C'est un vrai débat philosophique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que réussir une sortie, réussir une fin de carrière. Mais déjà, c'est antinomique, ces deux mots. Ça va
bien
pas.
Sûr. Mais regarde, Christophe, il a pas réussi sa sortie. Parce qu'il est encore là.
Le combat de trop, l'émission de trop. Mais,
par exemple, pour
avec les grandes gueules de trop, je veux dire, après, ça fait 20 ans que je te suis, j'en peux plus.
Pour Raphaël Nadal, la question avait pu se poser quand il gagne ce Roland-Garros inouï alors qu'il est totalement blessé. oui. S'il arrête à ce moment-là, je dis pas que ça change sa carrière, ça, ça donne une autre envergure.
Ça change rien, mais sa
carrière. Mais ça imprime sa sortie.
Mais c'est,
ça
c'est le bon, Nadal, c'est le bon exemple, Nadal. Ouais, parce que justement,
il est persuadé qu'il peut encore gagner.
Mais bien sûr.
En fait, c'est ça, Julien, justement, là-dessus.
Teddy Riner, il gagne à Paris. Il est persuadé qu'en faisant la même chose, il sera toujours imbattable dans 4 ans.
Ça aurait pas été exceptionnel de le voir dire adieu à la carrière.
J'ai l'impression qu'on mélange deux choses. La sortie, Julien. Parce qu'on a parlé de Federer, la scénographie, etc. Comparé à celle de Nadal à Malaga à minuit, 10 minutes, pas de. Il y a à la fois la sortie sportive, il y a aussi l'emballage de la sortie, c'est ça.
Les hommages qui vont être faits après.
Tony Nadal, c'est ce qu'il a dit. Mais en fait, les hommages, il les aurait eus s'il avait accepté cette année la direction du tournoi Roland Garros. Lui a demandé à Raphaël Nadal.
Parce qu'il pensait revenir, je pense. Est-ce que lui. C'est pas sûr.
Ça correspond pas au personnage.
Voilà, avec son.
Mais franchement, moi, j'ai trouvé
compliqué.
C'était authentique.
Pas raté du tout. Je suis d'accord avec toi, Denis.
De beaux adieux. Je comprends pas Tony Nadal d'ailleurs.
C'est bien pour un athlète de terminer sur le court, sur le terrain.
Je veux dire qu'à la sortie
de Roger, moi, elle m'a pas plu. C'est un communiqué envoyé. Nadal, il a fini les armes à la main. Il a été battu, certes, mais il a fini les armes à la main devant son public, devant sa famille, devant ses amis, et rien que pour ça, et avec les larmes de tout le monde, rien que pour ça, je trouve que c'est beau.
Sarah, pas d'accord.
Mais non, je suis pas d'accord. On peut pas définir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Enfin, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui, à un moment ou un autre, vit un déchirement. Alors, t'en as quelques-uns. Tu l'as dit, Michael Phelps. Il y a Ashleigh Barty, 25 ans. Elle gagne l'Open d'Australie. Elle dit. Merci, je suis numéro mondial. Elle tire sa révérence.
Borg à 26 ans.
Exactement. Elle dit, je veux arrêter, je veux faire un enfant. Mais ces cas-là, ils sont extra rares. Combien de fois, Lormane Odou, elle te dit qu'elle arrête après ses médailles, et elle, en fait, elle replonge 4 ans après. C'est moyen.
Et son frère, et Florent Manoudou, il a fait la même chose. Il a fait du handball, comment il s'appelle? Borg, en plus, Borg, il s'arrête à 26 ans, on croit que tout est bon. Il fait une dépression derrière.
Il s'est arrêté, mais. La psychologie à ce moment-là, Christophe, elle est tellement incompréhensible. Tu peux pas demander à Nadal, qui perd à Roland Garros, en disant, en l'espace de 5 secondes, il range sa raquette et au fait, ça y est, je vais arrêter. Mais quel être humain qui a été au sommet de son sport peut switcher de cette manière-là? Émotionnellement, psychologiquement, ce n'est pas possible.
Mais moi, je trouve que la sortie de Nadal est très significative dans le sens où Nadal, finalement, il est comme les autres, en fait. C'est-à-dire qu'il a cru qu'il pouvait encore gagner, alors qu'il était incapable de gagner. Il a été surclassé par un mec qui était 140, tu me dis qu'il est bon, mais il est 140e. Mais je veux dire, s'il est chez lui à Malaga, il a joué parce qu'il était convaincu qu'il allait gagner. Non, mais je le pense vraiment.
Je pense qu'il raisonnait collectivement aussi.
Oui, mais je pense
qu'il voulait une
belle photo de famille autour du saladier
avec Alcaraz. Il demandait pas à jouer en simple. Voilà. Il s'attendait pas à jouer en simple, d'ailleurs.
Il a été surpris que Ferrer lui dise « tu vas y aller ».
Oui, mais il aurait pu dire à Ferrer « je pense que je ne suis pas capable ».
Non, c'est pas Nadal.
Je suis désolé. Ah ben d'accord.
C'est pas Nadal.
Sauf que le risque était grand puisque l'enjeu était là.
Ce qui était fou quand même, c'est qu'il dit après son match, alors que l'Espagne est encore en course, moi en simple, vaut peut-être pas me mettre.
Plus, c'est le non, mais
comment se serait passé la fin du tournoi sans Rafael Nadal?
Je préfère l'avoir vu être battu sur le court plutôt que l'équipe d'Espagne éliminée sans que Nadal ait joué. Alors là, ça
aurait d'accord, mais.
Justement, Pierre veut revenir sur cette dernière sortie de Rafael Nadal. Bonjour Pierre.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Merci d'avoir composé le 32-16. Tu veux revenir sur ces adieux?
Alors déjà, en sportifs qui ont plutôt bien réussi leur sortie, il y a Kobe Bryant aussi qui a bien réussi sa sortie. Avec un dernier match à 60 points qui donne la victoire aux Lakers. Enfin,
c'est vrai, il y en a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples.
Et il l'avait dit, c'était son dernier match?
Il l'avait dit, sa dernière saison. Il a fait un farewell tour, une tournée d'adieu sur toute la saison. Enfin, c'était pas mal, franchement, c'était une belle sortie. Enfin, sur Nadal, moi je pense qu'en fait, il aurait dû arrêter après Roland Garros, après la défaite contre Zverev, passage de témoin à la nouvelle génération. Il aurait dû faire le double avec Alcaraz, juste le double au JO, parce que fallait voir Alcaraz-Nadal, ça c'était pas mal. Mais en fait, les sportifs, pour moi, c'est comme, vous savez, quand vous mangez un bon repas, et vous avez plus faim, mais vu que le repas est bon, vous voulez en reprendre. Et le problème, c'est que le lendemain, vous allez avoir l'indigestion. Quoi. En fait, je pense que pour réussir sa sortie, faut pas être gourmand. Faut se dire j'y arriverai plus. et arrêter de se dire je vais peut-être encore y arriver, encore avoir
ça,
un coup d'éclat.
Ça c'est une utopie, une utopie, c'est pas possible.
Dire qu'un sportif à un moment quand il est blessé, donc où il est en train de décliner, il se dit bon bah quand je remonterai pas j'arrête. Mais qui on est pour dire à un sportif d'arrêter quand
mais c'est impossible.
C'est impossible. Non, et il y en a qui auraient dû arrêter et qui ont continué à avoir des titres. Et s'ils s'étaient dit à la première baisse de régime ou à la première blessure, c'est terminé, je pourrais plus. Mais on en aurait perdu plein haut.
Pierre veut répondre.
Oui, mais Sarah, pour Nadal, on parlait pas de la première blessure et du premier déclinement. On parlait quand même
non,
de plusieurs blessures.
Non, mais nous, notre débat, il faisait
un moment qu'il arrivait
plus
à revenir. Oui, mais pour tous les sportifs, Zidane, par exemple, à la Coupe du Monde 2006, il aurait pu encore re-signer au Real Madrid une ou deux années.
Mais Zidane était revenu avant, continuer. Quand même, souviens-toi.
Oui,
Zidane,
en fait, il a su que ça serait la dernière danse, et c'est peut-être mieux, justement, de l'annoncer avant que ça serait la dernière danse, et puis te concentrer à fond sur le dernier objectif. Alors que Nadal, en fait, il repoussait à chaque fois, par exemple. Il se disait, c'est pas encore la dernière, la dernière. Et ben, au final, franchement, moi, Nadal, à la fin, j'adore le joueur, Mais moi, il m'a fait plus de peine qu'autre chose sur les derniers tournois.
Pierre, quand tu t'arrêtes, t'es sportif, ça fait toute ta vie, t'es construite autour du sport, matin et soir, quand tu t'arrêtes, tu sais que la fin est proche, mais tu repousses tout le temps, jusqu'à un moment où tu te dis, c'est le corps, il est plus là, tu peux plus. Mais tu peux pas décider du jour au lendemain, tu dis, tiens, alors tu en as, tu me dis, parle de Kobe Bryant, il a quoi, deux ou trois, je dis, sportifs, mais après le reste, c'est impossible, je suis comme Sarah.
Tu décides pas quand est-ce que tu vas prendre ta retraite.
C'est un choix insoluble. Tu t'en souviens au moment où tu as décidé de prendre ta retraite, Julien?
Ouais, mais j'ai eu la chance de choisir. C'est-à-dire qu'à l'été 2017, je me suis dit, 2018, ce sera la dernière. Quoi qu'il arrive. Et donc, du coup.
Et pourquoi? C'est une question de niveau ou c'était
non,
une question
parce que
d'envie?
J'ai très bien joué fin 2017, demi à Bercy, 2018, je joue bien et tout.
Et ça t'a pas poussé à dire, en fait, si, j'en ai encore sous le pied?
T'as été tenté à un moment,
mais non,
jamais.
Moi, j'ai arrêté à 35 ans, parce que j'avais dit, je vais arrêter à 35 ans. Mais la prise de champion de France. Stade français.
Je suis parti en dépression nerveuse.
Ouais. Ouais. Non, truc con. Hein.
Tu crois que je prendrai pression quand j'essaie de dire rat d'ici là? Non, pas du tout.
Il l'a déjà fait, t'as déjà viré. Ouais.
il m'a mis sur le strapontin.
C'est parce que j'ai aucun courage, donc j'ai fait les choses à moitié. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir composé le 32-16. Merci beaucoup, Eric Salio, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. La punchline des GG, c'est Nasser Al-Khelaifi cette semaine sur RMC. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, Luis Enrique restera. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34 de retour dans les Grandes Gueules du Sport avec nos GG, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Denis Charvet. Dans 10 minutes, les GG contre-attaquent. Mes GG, vous avez tous proposé un débat il y a quelques minutes, soumis au vote sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Et Denis, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'espère que t'as bien bossé, hein, parce que je pense que tu vas gagner là. T'es à 47%. Avec 4 débats.
Oui, mais c'est
47%, le Paris FC, tu es convaincu par le projet.
Bien sûr,
écoutez son truc, parce que ça va être une calamité.
T'es rejeté par la jalousie, tu devrais pas être ici. T'as sorti le revient depuis un an ou deux ans même.
Attendez, les copains, on va voir, on va juger sur pièce.
Et moi, je suis à quoi? Moins de 10%?
Oui, à peu près. Ce sera dans 10 minutes. Denis a 10 minutes pour se préparer pour nous parler du Paris FC.
Figure-toi, c'est pourquoi j'ai fait ce débat.
Pourquoi?
En opposition avec la communication du PSG.
Oh là là, mais c'est
travaillé tout ça.
Mais
c'est incroyable.
Mais attends, ça veut dire que tu connais parfaitement le conducteur.
Le talent lié au travail
du PSG. L'incarnation. C'est certainement ce que l'on appelle apprendre de ses erreurs. Jeudi, Nasser Al-Khelaifi s'est montré très clair sur l'avenir de Luis Enrique, invité exceptionnel sur RMC de l'émission Rotten sans flamme. Le président du PSG a conforté son entraîneur, même si ça se passe mal en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, qui s'est imposé hier en Ligue 1, 3-0 face à Toulouse, est en grand danger sur la scène européenne. Seulement 25e sur 36 à 4 journées de la fin de la phase de poule, sachant que mardi soir, ce sera un déplacement à Munich. Face au Bayern Munich. Serait-il menacé en cas d'élimination? C'est la punchline des GG. Réponse Nasser Al-Khelaifi.
RMC,
La punchline GG.
On change rien. Les clés arrivent, on sort, on gagne. C'est exactement la même chose. On a beaucoup confiance dans le coach. Il a fait très bon travail avec le sport advisor Luis Campos.
Jamais en danger, quoi qu'il arrive. Bonne ou mauvaise stratégie ? Denis Charvet.
Mais mauvaise.
Mauvaise. Julien Beneteau.
Sur le papier, c'est une bonne, mais ça se passera pas comme ça.
Ok. Sarah Pitkowski.
Bah, à l'heure où on se parle, en ce samedi, c'est une bonne stratégie. Elle est cohérente.
Ok, elle est plutôt cohérente. Christophe Cessieux.
Je suis exactement sur la ligne de Monsieur Beneteau.
Parfait.
Exactement pareil.
Denis, pourquoi mauvaise?
Ben, mauvaise parce que l'histoire parle d'elle-même, l'histoire du PSG, je parle du président en place qui a prouvé depuis maintenant 15 ans, non, ça fait 12 ans entre 12 et 15 ans qu'ils sont ici, que
13 ans
donc un entraîneur, ben il prenait la porte dès qu'il le désirait, dès que ça allait pas, dès que il y a un grain de sable voilà qui se mettait dans la machine.
Pardon, mais il a le droit d'avoir changé quand même.
Mais je crois pas. Je crois pas, puisque on l'a bien vu avec Laurent Blanc, qui a été reconduit pendant
parle du début de l'ère Qatari.
Non, c'est pas le début, mais après, d'accord, mais combien d'entraîneurs sont partis du PSG du jour au lendemain? Je te fais la liste est longue. Moi, j'y crois pas, parce que imagine demain en Champions League, t'es pas qualifié, ce qui est possible, hein.
Ah,
c'est
ouais, possible. Oh.
Ah ben c'est possible, excuse-moi, c'est possible.
Ah oui, c'est très possible.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc tu confortes l'entraîneur qui te fait pas gagner, qui te qualifie pas, et qui tu lui dis ben on laisse continuer. Moi j'y crois pas du tout à cette politique là. J'y crois pas.
Alors pourquoi on le fait resigner le 18 octobre alors que les matchs de Ligue des Champions ont déjà commencé? Pourquoi on le fait resigner jusqu'en 2027?
Mais donc ça va dans ce que je disais par rapport à Laurent Blanc, c'est la même chose. On refait les mêmes erreurs.
Stratégie alors.
Mais non, je dis que c'est là non pour mais moi.
On refait la même histoire.
Pour moi, là, aujourd'hui, le PSG est cohérent. C'est-à-dire qu'ils veulent s'inscrire dans une autre dynamique. C'est-à-dire, sur la durée, avec un entraîneur, moins de stars, ouais, et laisser un entraîneur construire son équipe. Donc, quand tu reconduis un entraîneur au bout d'un an et demi, tu le reconduis jusqu'en 2027, alors que tes matchs de début de Ligue des Champions sont quand même assez quinca.
Mais c'est pour ça que c'est une mauvaise stratégie.
Mais non, la mauvaise stratégie.
Non, justement, là, je suis d'accord.
Mais bien sûr, que ça soit Luis Enrique ou Nasser, disent que c'est pas la Ligue des Champions, n'est pas l'objectif de cette année.
Mais c'est un fumage, Sarah, c'est pas vrai, quand même. La Ligue des Champions, c'est pas le championnat qui.
Mais peu importe que ce soit vrai ou pas vrai, aujourd'hui, quand tu prends les faits, c'est-à-dire que tu reconduis ton entraîneur le 18 octobre, jusqu'en 2027, c'est que tu es cohérent par rapport à ce que tu n'arrêtes pas de dire depuis quelques mois. Non. Le PSG, c'est une marque, c'est un club.
Non, c'est en ça où je suis d'accord.
Mais ailleurs,
c'est pour ça que je te dis, c'est cohérent samedi 24 novembre, aujourd'hui. C'est cohérent aujourd'hui.
On est 23.
On est 23, pardon.
C'est là où je dis que je suis d'accord que c'est une bonne stratégie, mais que c'est cohérent par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place. En revanche, je n'y crois pas et je n'y achète pas. Pour plusieurs raisons,
c'est paradoxal ton discours.
Je comprends pas.
Mais si.
Pourquoi ils le feraient avec Luis Enrique et pourquoi ils l'ont pas fait avec Ancelotti ou
parce que c'était un autre moment où en fait ils misaient sur leur star.
De leurs erreurs.
C'est ce qu'ils arrêtent pas de nous servir aujourd'hui.
Et surtout, je pense qu'en fait, dans le milieu du football, encore plus qu'ailleurs, c'est que les résultats vont parler et que ils vont se qualifier en Ligue des Champions. Mais s'ils font 8e de finale et qu'ils paument.
Moi, je dis qu'il est encore là l'année prochaine. Mais
normalement, déjà, il faudra passer par les 16e, parce que le Paris Saint-Germain n'est pas encore très loin d'être qualifié déjà dans les 8 premiers.
Ils se qualifient en 16e, ils gagneront. Ils vont jouer une équipe pas très forte. Sur un match aller-retour, ils vont gagner. Mais
il y a un truc que je comprends pas dans votre analyse. Le PSG dépense autant d'argent qu'avant. Ils ont une politique en disant je recrute, on va pas recruter des stars, mais c'est les stars qui font gagner. Je suis désolé, c'est les grands joueurs qui font gagner.
Bah, la preuve que ça ne les a pas pour autant fait gagner.
Mais en ce moment,
quand on avait Neymar, Messi, Mbappé, c'est pas pour autant que ça gagne.
De leur nouvelle politique qu'ils ont mise en place.
C'est-à-dire
pour moi, j'y crois absolument pas parce que les grands joueurs font gagner.
C'est les stars qui font gagner. Donc ils ont moins de stars. Ils font une autre politique. On est
d'accord. C'est la politique de Luis Enrique de ne pas avoir de stars. C'est lui la star.
Mais non, ils sont allés chercher. Donc du coup, si Nasser accepte de ne pas gagner, dans ces cas-là, s'il gagne pas, il continue avec Luis Enrique. Le virage, on l'a bien compris des dirigeants parisiens. En tout cas, dans la communication, on attendra pour les faits. Mais Christophe, est-ce que tu crois réaliste si le PSG se qualifie pas en Ligue des Champions pour pour les 16e de finale. Est-ce que tu crois que Luis Enrique peut rester? Est-ce que tu crois que ça va pas être le feu au PSG?
Je pense qu'il peut rester parce que j'ai l'impression que Nasser s'est fait une raison encore une fois cette saison sur le fait que son équipe ne gagnera pas la Ligue des Champions. Il le disait depuis le début de la saison. On est en reconstruction. On a intégré des jeunes. On a un entraîneur et on va pas s'arrêter parce qu'il y aura une élimination. Évidemment, ça le fragilisera. Ça le fragilisera sérieusement s'il se fait sortir s'il va pas en phase finale du tout.
On parle du PSG, je suis désolé.
Ils ont essayé tous les entraîneurs.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il dit oh là là, s'il se qualifie pas pour la Ligue des Champions, il dégage. Évidemment qu'il peut pas dire ça.
Ça veut dire qu'on met pas de pression, ça veut dire qu'on lui donne carte blanche.
Mais
c'est exactement ça le discours. Je suis désolé.
C'est pour les gogos comme toi.
Non, mais pas du tout. Moi, j'y crois pas sur les communications.
Tu penses qu'il y croit vraiment à ce
qu'il dit? Oui, je pense qu'il y croit aujourd'hui. Oui,
tu penses
crois.
Tu sais pas qu'il se rend pas compte que s'il perd et s'il est éliminé en Ligue des Champions,
il n'est pas aveugle. Mais ils ont déjà essayé tellement d'entraîneurs. Virer un entraîneur encore à moins de deux ans,
pourquoi le président fait cette sortie?
Mais parce que c'est pour les gogos comme toi, pour les supporters du PSG.
Je me lève. Je
peux leur faire plaisir.
Il est debout avec sa nouvelle hanche. Reste avec nous, Denis.
Aujourd'hui, Julien et Sarah. Je pense que le président s'est enfermé dans quelque chose.
Voilà.
Une nouvelle croyance.
Je suis content d'entendre dire ça.
Laisse finir quelqu'un.
Il s'est enfermé dans quelque chose. C'est-à-dire qu'avec sa nouvelle politique et avec sa communication, s'il sort Enrique en février ou en mars parce qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions ou qu'ils perdent en huitième, il est plus du tout crédible, le président.
Il perd en cohérence, c'est
le football, le résultat des
cartes. Donc sa communication n'est pas que de la communication. S'il communique comme ça, c'est qu'il ne peut plus faire autrement.
Il peut agir de cette manière-là.
Mais surtout que s'il sort Luis Enrique, ils vont aller chercher qui? Ils ont tout essayé, à part Pep Guardiola. Klopp. Qui est-ce que tu vas chercher? Klopp? Allez, mais ils ont déjà tout essayé.
Klopp, il a
essayé.
Il va faire gagner la Ligue des Champions.
Tu t'imagines si ça gagne? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, avec un petit peu de pragmatisme, et en réfléchissant, t'as déjà essayé tellement de solutions qu'il y en a une qui peut te dire aujourd'hui, on va essayer de garder la longueur, le même entraîneur, on va lui laisser construire son équipe et on tirera des conclusions, mais on va pas les tirer encore au bout de trois mois de Ligue des Champions.
Je pense qu'il y a beaucoup de fierté et d'orgueil chez lui. Dans la mesure où, en fait, il se conforte à l'idée et que cette sortie médiatique fait qu'il dit, nous on se trompe pas,
il s'est trompé tout le temps, ridicule. Jusqu'à maintenant.
Le football.
Au moins depuis quelques mois, il est droit dans ses bottes, on peut lui il dit la même chose depuis plusieurs mois.
Oui, mais c'est ce que je te dis. Cette nouvelle sortie, pour moi, elle est ridicule.
J'aimerais vraiment être dans 3-4 ans.
Mais ouais, mais moi aussi, tu sais quoi.
Quel est le plus probable? Quel est le plus probable? De voir Luis Enrique sur le banc du PSG dans un stade à Poissy ou de voir un autre entraîneur du PSG au Parc des Princes dans 3-4 ans? Si tu écoutes ce que dit Nasser,
la réponse à cette question.
Si tu écoutes ce que dit Nasser,
Luis Enrique dans
un autre stade.
Ok,
mais j'en suis vraiment pas sûr.
Okay. Et Klopp sur
au PFC à sur le banc du PFC avec
champion d'Europe avec 50 000 déchaînés. Ah, ce serait génial.
Et Denis qui aura changé Kazakh.
Bien sûr.
Je pense que Denis a gagné sur le Paris FC. Il veut nous parler de ce projet ambitieux qu'il aime tant. Enfin un projet qu'il aime. C'est peut-être dans quelques instants si vous continuez de voter pour ce débat. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, de retour dans les grandes gueules du sport. Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Julien Beneteau, Christophe Cessieux, merci de votre fidélité. Restez bien avec nous encore. De belles choses à vous raconter dans cette émission. À 11h, on reviendra sur la tournée du 15 de France. Est-ce qu'elle fait oublier la tournée en Argentine cet été? L'été catastrophique de nos bleus. Les GG ne sont pas d'accord sur cette question. Et puis le débat caché. Alors là, vous allez adorer ça, c'est sûr. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les GG.
RMC,
Les GG contre-attaque.
Quatre propositions ont été faites ce matin par les GG, quatre propositions de débat. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. Avec 9%, il l'a dit, il fera moins de 10%. Paris réussit le retour d'Hirscher et de Lindsey Vonn en ski. Bravo Julien Beneteau. 9%.
Aucun commentaire.
Aucun ?
Non. Je n'y allerai jamais.
Un jour tu gagneras.
Je commence à douter.
Tu vas gagner, moi je le sais.
Peut-être comme Lucien Riquet en 2027.
Il faut un top mental, je pense.
Oui, mais on compte te garder encore quelques années. Donc
ah,
tu vas
merci,
gagner.
T'as des infos?
Non, mais en tout cas, c'est une volonté personnelle. Une volonté amicale. L'héritage des Jeux Olympiques, 3e place, 19%. T'es bien battu, ça.
Non, mais, hein, non, mais vous comprenez pas. J'essaie d'élever le débat, en fait.
Ah oui, mais attends, c'est les
sujets sociétaux. Bah ouais, mais à chaque fois, je prends une claque.
On redescend tranquillement.
Sur les sujets sociétaux, c'est dingue, ça.
On veut pas ça.
Comme David Douillet.
Deuxième. Christophe Cessieux, 23%, et cette rivalité France-Argentine, c'est pas passé loin.
Il y en a que pour le rugby.
Ce qui est dur, c'est d'être derrière Denis. Ouais. De finir deuxième, ouais, mais c'est surtout d'être derrière Denis.
Tu sais,
c'est ça qui est dur
pour gagner ce truc, il faut dire je vais faire un sujet sur Mbappé ou un sujet sur PSG. Là, t'es sûr de gagner, de toute manière. De toute façon, nos auditeurs et nos tweetos, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur
nez. Je ne sais pas, nos auditeurs.
J'y sais,
il est temps de s'en séparer de lui.
Bah écoute, la retraite, c'est quoi?
Déjà,
fais
ta contre-attaque,
il va revenir.
Régale ton éditoire. Vas-y, régale ton éditoire.
Je parlais de ça parce que ça m'intéresse.
49%, voilà. C'est une grande victoire. Large victoire pour Denis Charvet, le projet du Paris FC, exposé cette semaine par Antoine Arnaud. À toi de jouer, Denis, on t'écoute.
Écoute, non, j'ai choisi ça parce que j'ai été très, étonné, mais dans le bon sens du terme, par la sortie, la conférence de presse d'Antoine Arnaud. Alors évidemment, c'est de la com, c'est réfléchi, c'est bien pensé, il y a une vraie stratégie derrière, mais au moins j'ai senti de l'authenticité, ce que je sens pas au PSG aujourd'hui. On vient d'avoir le débat avec le président Nasser, et là en fait ils vont dans une bonne direction, ils s'associent avec Red Bull parce qu'il y a Klopp derrière et que dans un futur proche, mais pourquoi pas Klopp serait l'entraîneur de cette équipe. En tout cas, le conseiller très très rapidement, il va être conseiller de l'équipe du PFC. Il parle de la formation, évidemment, la formation, c'est un peu de l'enfumage, parce que la formation, tu rentres dans tous les clubs français, la formation, que ce soit à Marseille ou même au PSG, ça existe très très peu.
Antoine Arnaud l'a dit, le meilleur centre de formation de France.
Voilà, le meilleur centre, ça j'y crois absolument pas. Après, il dit, en même temps, il dit on va prendre l'équipe en deuxième division et puis on va acheter 8 joueurs. Donc c'est pas pour faire la formation là. Donc 8 joueurs, je pense que c'est 8 joueurs qui sont de bon niveau pour pouvoir monter en première division. Donc tout ça dans un avenir très proche. Mais je trouve que la réflexion qu'ils ont sur le fait de dire ben on n'est pas là pour gagner la Ligue des Champions dans 5 ans, ils préparent, ils construisent le ce club qui est un club qui a pas d'histoire, en fait. C'est ça qui est, c'est un peu le PSG il y a 40 ans. Donc, ils sont en train de construire une histoire. Je trouve que c'est plutôt intelligent. Ils vont mettre des moyens. Des gros moyens, j'en suis pas certain. Parce que ils vont pas faire n'importe quoi. C'est pas comme le Qatar. Et c'est en ce sens que je me dis que ça peut fonctionner. Ça peut marcher parce que ça
veut
sera
dire quoi fonctionner?
Réfléchi. Mais on fera pas n'importe quoi. Ça veut dire que
oui, mais ça veut dire que le Paris FC, donc deux clubs
dessous quoi, en gros, c'est ça?
Non, c'est pas ça que je dis. C'est que il faut pas mettre dessous n'importe où et n'importe quand.
Mais Denis,
et virer tout le monde tous les ans.
Denis,
tous les
ce serait quoi un bon PFC pour concurrencer, pour être enfin une capitale comme les autres capitales européennes avec deux clubs forts dans l'élite?
Mais
ce serait
un club
quoi,
comme
en fait
Monaco, voilà, un club qui a une équipe comme Monaco,
qui joue le podium, en fait,
qui joue le podium, qui a de la qualité,
le budget de Monaco avec les avantages fiscaux qu'a la SM, c'est quand même du très très haut niveau.
Non, mais non,
c'est du très haut niveau, Denis.
Mais le PFC aura ce budget-là, tu verras.
Ce serait énorme.
Mais s'ils veulent arriver de jouer dans les deux ou trois premiers, t'es bien obligé d'avoir un budget autour de 300-400 millions.
D'accord. Je vous propose d'écouter Antoine Arnaud, un bout de sa conférence de presse sur, évidemment, cette prudence au niveau des ambitions.
On veut faire les choses étape par étape. On ne veut pas les brûler. D'abord, construire encore mieux cette très belle équipe de Ligue 2 qui a pour vocation à monter en Ligue 1. Bien entendu, une fois qu'on sera monté en Ligue 1, c'est pareil, le premier objectif, ce sera d'y rester. Et puis ensuite, petit à petit, on va essayer de construire une équipe qui sera en première moitié de tableau et ensuite qui essaiera d'accrocher les places européennes. Jamais vous me verrez annoncer qu'on veut gagner la Ligue des Champions dans 5 ans, parce que je pense que c'est pas du tout notre vocation.
C'est un sacré pavé dans la mare du Paris Saint-Germain tout de même, cette, bah oui, cette déclaration.
Ils se construisent en opposition totale avec le projet du PSG, et je pense effectivement qu'ils vont aller récupérer des gens qui ont été déçus par ce projet, qui en ont marre de cette grandeur, de même si évidemment ils espèrent toujours remporter la Ligue des Champions et qu'ils se sont régalés avec les grandes stars qui sont venues au PSG. Mais je trouve que c'est bien d'avoir deux clubs différents, avec des projets différents, avec
un ADN différent
ouais. dans la capitale. Et tu voulais... Je sais, tu avais eu l'idée de faire un débat autour de ça. Est-ce qu'il va falloir, est-ce que ça peut devenir un vrai rival, et est-ce qu'il va falloir forcément être supporter de l'un ou de l'autre en opposition? Et je pense que, franchement, moi, j'ai envie de voir le PFC réussir, d'arriver au haut niveau, d'arriver à titiller les plus grands.
Il y a quelques années, on avait le matra, souvenez-vous.
Mais ça n'a jamais vraiment pris. Il y a quelque chose de très excitant, et comme je disais il y a quelques instants, on était la seule capitale à ne pas avoir grande capitale européenne, à ne pas avoir plusieurs clubs en son sein. Donc, j'ai envie de dire, c'est un juste retour des choses. Et l'histoire du PSG, parce qu'il y a une vraie histoire sur ce PSG. Elle décline du Paris FC au départ. C'est ça, la création du PSG vient du Paris FC.
Non, mais ce step by step que nous décrit, ça, vous y croyez?
Il n'y a pas de stade. Enfin, pas de stade de qualité pour pouvoir aujourd'hui concurrencer.
C'est un vrai problème.
Je veux dire, c'est très bien de monter un club, mais ta billetterie.
Ils vont trouver un arrangement.
Mais comment tu veux faire avec Jean Bouin?
Comment
tu veux faire avec Jean Bouin?
Jean Bouin est à côté du Parc des Princes.
En tout cas, aujourd'hui,
ils tourneront sur deux stades.
Aujourd'hui, il n'a pas de stade à la hauteur d'un club de Ligue 1 qui aspire aux ambitions, même petit à petit, qu'il a annoncé. Pour l'instant, il manque le principal.
Par à Poissy, faire son stade de 70 000, il va récupérer.
Si il monte,
ils vont jamais aller jouer à Charletti. Donc,
pour la première fois, et même en conférence de presse, ils ont dit pourquoi pas Charletti si on aménage le stade.
S'il casse un peu les courants d'air, parce qu'il fait froid dans ce stade.
On reparlera du Paris FC dès demain dans les grandes du sport, donc soyez bien présents avec nous les copains. On se retrouve dans quelques instants pour les grandes gueules du sport avec nos GG et reparler de notre 15 de France. Est-ce que cette tournée là d'automne a fait oublier la tournée en Argentine cet été? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. On est très heureux d'être avec vous le week-end de 9h à midi en direct, mais également en podcast. Mois après mois, nous battons des records en podcast. Donc je sais que vous êtes friands d'aller nous écouter le samedi après-midi, le dimanche après-midi. En tout cas, les deux premières heures sont déjà en ligne. On a parlé du 15 de France à partir de 9h. On s'est demandé si vous étiez emballé par ce 15 de France après ces trois tests matchs et notamment la victoire hier face à l'Argentine. On a parlé des adieux de Raphaël Nadal, du Paris Saint-Germain et de cette sortie cette semaine sur RMC de Nasser El Khelaifi. Et puis dans quelques instants, nous allons venir évidemment sur ce 15 de France. Cette tournée a-t-elle fait oublier la tournée catastrophique en Argentine? Et on parlera notamment en termes d'image. 11h30, le débat caché, une séquence magnifique. Vous êtes totalement dans le noir, totalement perdu, vous ne savez pas quel est ce débat. Et pourtant, il va falloir réagir sur l'émotion. D'après vous, c'est quoi le débat caché? Tiens, je fais un petit tour dans les rangs. Julien Beneteau.
J'ai trois pistes.
Ah, bah donne-nous la plus chaude.
Si tu peux m'en filer une, parce que j'en ai aucune, moi.
Bah, j'ai dit la première.
Est-ce qu'on parle de l'héritage, Sarah, des sports, des Jeux Olympiques?
Ça n'intéresse pas.
Non, ils sont fous. Parce qu'il y a les deux heures de sport en moins, là.
Au collège, bien sûr.
Au collège.
J'ai tout subi.
Est-ce que l'éternel débat, est-ce qu'on est vraiment un pays de sport?
Est-ce qu'on veut devenir un pays de sport?
C'est pas un débat caché.
C'est trop pointu, ça.
C'est trop pointu,
Non, non, il lui faut du bling-bling, il lui faut du
Mbappé, du stade du PSG, un débat sur le nouveau stade du PSG.
Vous savez que je suis là pendant que vous faites la conversation. J'entends tout, j'ai un casque. Denis Charvet.
Sur Mbappé. Parce que tu vas le prendre à contre-pied.
À contre-pied,
parce que c'est.
Si, sur Mbappé.
Mais oui, bien
Didier
sûr.
Deschamps est en train de réfléchir à lui enlever le brassard.
C'est ce que je disais, voilà.
C'est ce que tu disais.
Moi, j'étais plutôt sur la safety car qu'on veut peut-être mettre dans le vélo, ce qui ferait ralentir. C'est-à-dire qu'on veut ralentir les coureurs cyclistes. On veut maîtriser.
Eh oui, safety car dans le vélo. Belle proposition, ça, ma Sarah.
Christophe. Peut-être un truc sur Longoria, tu sais, qui s'érige justement en modèle opposé à celui du Paris Saint-Germain. Et ça peut être un truc d'intéressant.
Ça peut m'exciter.
Ça pas réfléchi.
Réponse dans 20 minutes.
Après, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un petit débat golf.
Ouais.
Non. On n'est pas à l'abri de ça.
Cette semaine, je suis un peu déçu sur Jalibert quand même.
Ok les copains, Antoine Rosner s'est qualifié sur le PGA Tour, un excellent podcast, le Practice RMC en parle justement, mais peut-être que nous aussi nous allons en parler à 11h30. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Michel de Montaigne qui a dit un jour qui songe à oublier se souvient.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Une vidéo sur les réseaux sociaux a été diffusée avec Melvin Jaminet pour seul protagoniste. L'international français y tient des propos à caractère raciste.
L'arrestation en Argentine de deux joueurs de l'équipe de France de rugby.
Ils sont tous les deux accusés de viol. Le parquet de Mendoza, la ville où auraient eu lieu les faits, a décidé de les inculper.
C'est terminé. Victoire de l'équipe de France pour ce premier test face au Japon 52-12. C'est terminé. La France t'emporte 30-29. Quel exploit des Français. 15e victoire dans l'histoire des Bleus face aux All Blacks. C'est terminé. Victoire de l'équipe de France 37-23. Le bilan est très positif avec ces trois victoires en tour de match à l'automne.
Trois matchs, trois victoires. Le 15 de France pouvait difficilement rêver mieux pour cette tournée d'automne. Les Bleus se sont offerts les Japonais, les Néo-Zélandais, les Argentins hier soir. Trois rencontres convaincantes après une année 2024 difficile, vous le savez bien, un tournoi destination raté, une tournée en Argentine catastrophique en termes d'image. La musique qui fout les jetons. Et cette question, cette tournée a-t-elle fait oublier la tournée en Argentine? Oui ou non? Christophe Cessieux.
En grande partie.
En grande partie. Sarah Pitkowski.
Non, jamais. Ça restera toujours une cicatrice.
Denis Charvet.
Oui.
Julien Beneteau.
Non, il ne faut pas.
Il y a deux noms, deux oui. Il y a les tennismen qui vont affronter les rugbyman dans quelques instants dans les grandes gueules du sport.
Non, mais eux, ils veulent nous saquer.
Bah, Christophe est rugbyman, ah, okay, oui, il a vu la carrure.
Non, il est skieur.
Il est cycliste.
Avant de débattre.
Je suis pas golfeur, ça c'est sûr.
C'est quand même l'une des voix du rugby sur RMC, les copains. Un peu de respect. Avant de débattre, on va retrouver notre commentateur sur RMC, c'est Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Il est arrivé à Toulouse.
Le dernier.
Il est parti hier soir du Stade de France en stop et il est donc arrivé à Toulouse ce matin. C'est bien.
Alors, mon cher Wilfried, qu'en pensent les Bleus? Est-ce que tout est oublié?
Bah écoute, trois matchs, trois victoires, tu l'as dit, un succès de prestige sur les All Blacks, un autre plein d'autorité contre les Argentins hier soir, rien à redire quasiment sur le sportif, mais le sélectionneur Fabien Galthié sort de cette tournée renforcée, hein, en plus on va dire, hein, par sa méthode et ses résultats, et lui ne voulait pas oublier ce qui s'était passé avant.
Non, la tournée en Argentine, elle fait partie aussi de notre histoire. Malheureusement, après, il a fallu jouer au rugby avec ce qui nous était arrivé. Donc, c'était très, très particulier. Mais ça fait partie du chemin aussi de notre équipe.
Il n'en a pas dit beaucoup plus, hein, du côté des joueurs. Il a fallu aller voir du côté des joueurs. Un homme pouvait particulièrement témoigner de ce contexte. Bah, c'est l'arrière du Stade français, Léo Barré, qui lui, tout comme Emilien Gailleton, était de la tournée en Argentine et de celle de novembre. Et il parle du bienfait de ces matchs de l'automne après le cauchemar de l'été.
En tout cas, la tournée en entière va, je pense, boucler la boucle, on va dire, avec ce qui s'est passé cet été, je pense, médiatiquement. Je pense qu'on a su répondre présent sur le terrain et redonner un peu d'amour autour du rugby. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de véhiculer aujourd'hui et qui n'est pas représentatif de cet été. Donc voilà, sincèrement, on n'en a pas parlé à l'intérieur du groupe, on n'en a pas parlé avec le staff. Voilà, on est vraiment focus sur les matchs et prendre du plaisir.
Enfin, il faut souligner aussi que cette tournée de novembre est un succès populaire, avec précisément, on nous l'a donné hier soir, 193 260 spectateurs au total au Stade de France. Trois week-ends de suite, on a même battu le record d'affluence pour une tournée d'automne, avec à la sortie et sur le sujet de l'image des Bleus, des supporters unanimes.
Sûr que les victoires, forcément, ça va un peu effacer tout le reste, parce que les gens vont retenir sur tout ça.
Moi, la France me fait pleurer comme toutes les rencontres, en fait. La France me rend fier, en fait. C'est magnifique.
Il y a l'extra sportif qui a pris un rôle important. Il y a des gens qui ont douté de l'équipe de France, de son intégrité. Mais finalement, avec ce groupe, on voit que voilà, les gars, ils sont concentrés sur le sport. Ils sont là pour jouer. Ils sont pas là pour faire des histoires hors du terrain. Et finalement, ouais, ça permet d'oublier en fait les quelques sorties extra sportives, on va dire.
même si ces événements ont remarqué l'année 2024, on a l'impression que le rugby français veut tourner la page. Chacun jugera de la trace que tout ça aura laissé avec, excusez du peu, un dernier épisode qui a son importance lundi. Lundi prochain, l'audience d'examen de non-lieu en Argentine, on saura si oui ou non il y a abandon de charge pour Hugo Radou et Oscar Jégou.
Merci beaucoup Wilfried Templier pour ce reportage auprès de notre équipe de France hier soir. Évidemment, tu restes avec nous pour cette question, pour ce débat. Cette tournée a-t-elle fait oublier la tournée en Argentine? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Deux noms, deux oui, les deux noms pour les tennismen. On va commencer avec Sarah Pitkovski, pourquoi non?
Parce que cette tournée en Amérique du Sud qui a été initiée, je crois, en 2012, sur le plan sportif, elle 2012. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Ça a commencé en 2012. Et alors pendant les années Covid, bien avant.
Oui. Moi j'ai joué là-bas donc.
Ah bah c'était pas en 2012.
Alors, c'était bien avant.
1972.
Alors. elle a vocation à faire des test matchs et puis à faire jouer aussi d'autres joueurs, pas nécessairement des titulaires. Mais si on sort du cadre sportif, je pense que ce qui s'est passé avec cette équipe de France et les dérives, ça a quand même rempli tous les faits divers. On est sorti du cadre du sport. Et aujourd'hui, même les gens qui ne suivent pas le rugby, qui ne suivent pas l'équipe de France, ils ont entendu parler de ces affaires en Amérique du Sud. Ça reste, et j'en suis désolée, une cicatrice pour le rugby français. Il y a un avant. Et il y aura un après. Déjà, l'après, il est très clair. C'est-à-dire que la fédération a dû mettre en place une nouvelle charte d'éthique et de déontologie pour encadrer au mieux cette équipe de France. Mais pas que les équipes de France qui sont seniors. C'est-à-dire que cette charte, elle va descendre à tous les niveaux. Les langues se sont déliées sur les dérives des joueurs de rugby. On a parlé des burn-out des joueurs de rugby. Il y a même les filles du rugby qui ont parlé de sexisme dans le sport. Donc ça a ouvert la boîte de Pandore, et qu'avant tout restait peut-être entre rugby mal, entre fédération, donc entre la fédération. Et aujourd'hui, oui, on a appris des choses, ça a ouvert des choses et des décisions ont été prises. Et je pense que ça va aussi dans le bon sens. Après, cette équipe de France bénéficie d'une cote d'amour et de popularité qui est assez pas incompréhensible, mais on a une affection pour nos joueurs de rugby français qu'on n'a peut-être pas pour les joueurs de foot, où à la moindre petite incardade, on est capable d'avoir une désaffection. Alors qu'au rugby, même s'ils n'avaient pas gagné, s'ils avaient perdu contre la Nouvelle-Zélande, ce stade de France était plein. Donc en fait, j'y vois pas un mal sur le fait qu'on n'oublie pas et que ça laisse une trace, certes négative, mais il y a des décisions qui ont été prises. Et mine de rien, ça n'enlève rien à cette cote d'amour qu'on peut avoir pour cette équipe de France.
Ok, Christophe, Denis, qui veut réagir? Qui veut répondre
non,
à ça?
Il suffit d'aller dans les stades, on y va avec Christophe, pour voir la cote d'amour dont tu parles. C'est absolument impressionnant. Donc c'est en ça que je me dis aussi que les gens n'ont pas fait l'amalgame entre le sportif et l'extra-sportif, qu'ils n'ont pas tout mélangé, et à raison, je le pense, dans la mesure en plus où les joueurs sont présumés innocents, donc attendons le verdict lundi, j'espère qu'il va tomber lundi. Mais il y a aussi
une problème.
Il va y avoir un non-lieu pour les charges qui pèsent contre elles. Mais
je ne dis pas que c'est bien, attention, je ne forme pas les joueurs. Là,
dans leur comportement.
Je dis juste que le grand public n'a pas fait l'amalgame. Quand tu vois le résultat des audiences qui sont colossales, ne serait-ce que par rapport au foot, en plus, je veux dire.
Mais c'est plus de 7,5 millions de téléspectateurs.
Tu te dis que le grand public, ils n'en ont rien à faire. Mais je ne dis pas que c'est bien, attention, je ne juge pas. Je te dis qu'ils ne font pas l'amalgame.
Pour toi, parce que tu vas au stade et que tu encourages l'équipe de France, tu as forcément rien à faire de ce qui s'est passé.
Il y a plusieurs populations, ça n'a rien à voir avec le football.
Mais tu penses qu'ils n'en ont rien à faire de ce qui s'est passé?
Non, ils font pas l'amalgame.
Non.
Dont ça a été géré aussi par les instances.
Mais
a été plutôt bien géré.
Ça a été bien peut-être
bien
géré.
En tout cas, ça a été bien géré.
En tout cas, Sarah, quand tu vas dans les stades aujourd'hui, on va dans les stades, personne nous parle de ça. Je dis pas que c'est bien, attention, je juge pas, je dis juste que c'est pour parler de répondre au débat.
Effectivement, là, pendant 3 semaines, les 3 matchs au Stade de France, personne n'a parlé,
n'évoqué quoi que ce
personne
soit.
Personne.
C'était.
Personne.
Et au contraire, je veux dire.
Et j'ai discuté un peu avec des supporters ou avec d'anciens joueurs.
Parce qu'il y a des décisions rapides qui ont été prises.
Là où tu as raison, c'est qu'il y a une cote d'amour qui est assez
parfois peut-être incompréhensible, je sais pas, mais c'est vrai que elle jouit d'une cote d'amour absolument incroyable. Est-ce que c'est les résultats? Est-ce que c'est l'état d'esprit?
Bah non,
est-ce
pour preuve, on n'est pas champion du monde au rugby, donc
c'est ce qu'elle envoie cette équipe peut-être aussi. C'est peut-être aussi le fait qu'elle soit généreuse, que je sais pas, et puis le rugby c'est pas, comme le dit très bien Christophe, c'est pas le même public que le foot. Hein.
Et puis il y a l'incarnation de l'équipe est différente aussi.
Aussi avec Dupont. Exactement. Avec Ramos.
Julien. Le capitaine sur cette tournée, c'est Antoine Dupont. Antoine Dupont, aujourd'hui,
il est irréprochable,
il marche sur l'eau, sur le terrain, en dehors du terrain.
Ouais, fils de paysan.
Il incarne,
il coche toutes les cases.
C'est Superman.
Il faut pas l'oublier, ça n'efface pas, il faut pas oublier, moi je pense, parce que comme l'a dit Sarah, et c'est les mots du président Florian Grill, il y aura un avant et un après. Que cette tournée en Argentine a été peut-être la conséquence de quelques dérives de certains qui nuisaient à l'image sur certains comportements, parce qu'on a appris suite à ça que pendant la Coupe du Monde, pendant les matchs, pendant la préparation, certains joueurs...
Mais depuis 50 ans, ça existe depuis 50 ans, cette histoire-là.
Oui, mais
ça n'avait pas été révélé au grand public.
Et que
les dérives étaient un peu cachées. Il y a eu des dérives tout le temps. Denis pourrait nous raconter plein d'histoires.
Où ça fait partie de leur histoire.
Ça fait partie de l'ADN.
Quand en 2011, en Nouvelle-Zélande, ils sont au fond de la soute et que justement, ils sont ensemble dans leur salon où ils se disent les quatre vérités et apparemment, ils en prennent une bonne. Moi, ça me dérange pas parce qu'ils sont entre eux, etc. Ce qui est problématique, c'est les comportements qu'il y a derrière, dus à l'excès d'alcool ou les propos de Melvin Jaminet, parce qu'on parle que de la tournée argentine. Ça, c'est problématique. Mais, comme l'a dit Fabien Galthié, ça fait partie de leur histoire maintenant. Ils ont géré, et je trouve qu'ils ont pas mal géré du tout. Vraiment. Que ce soit le staff technique, les dirigeants, les présidents. Et après, je pense qu'aujourd'hui, avec le retour des joueurs premium, des cadres et du capitaine, je pense que voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire et où ils vont.
Tu as dit un truc, Julien, je pense qu'on oublie quand même le succès colossal des JO à 7, c'est pas du 15, mais avec Dupont, le 7, ça redonnait.
Ça fait beaucoup de bien aussi au Cœur de France.
Je pense que ça fait beaucoup de bien.
Ils étaient obligés de toute manière de donner une image lisse, propre, une image d'équipe qui gagne avec des garçons motivés, recentrés. Les débats sur le sportif, justement, ça a été bien géré parce qu'ils ont évacué cette histoire avec la charte, on sort pas, on boit pas, on fait pas la fête. Ils ont parfaitement géré cette tournée de novembre de ce côté-là. Sportivement, c'est une réussite totale.
Et au niveau de l'image, inverse, c'est-à-dire que s'ils vont gagner à Dublin contre l'Irlande le samedi à 18h, mais qu'ils aillent boire des bières ensemble jusqu'à minuit ou 2h du matin et qu'il n'y a aucun débordement, ça fait partie du rugby et ça fait même partie du sport. C'est pas que le rugby.
Oui, mais on est obligé de frapper un grand coup pour ensuite lâcher un peu de l'aise.
Ils sont capables. Enfin, il faut être capable, il ne faut pas les enfermer à l'hôtel, etc. Il faut qu'ils soient juste capables d'être raisonnables.
J'ai une question pour Denis.
Et d'être ensemble, ça fait partie de leur histoire aussi.
Une question pour Denis. Puisqu'on le dit, cette tournée du mois de juillet, c'est pas les titulaires de l'équipe de France, puisque sur les 42 joueurs qui ont été appelés, 22, en tout cas quasiment la moitié, n'avaient aucune sélection en équipe de France. Donc peut-être pas encore les codes. Peut-être que ce manque d'encadrement ou cette autonomie qui fonctionne avec l'équipe première parce qu'ils ont l'habitude. Ouais. Est-ce que ces jeunes joueurs
les premiums aussi sont bourrés la gueule?
Laisse-moi terminer. Il y avait 22 joueurs qui avaient zéro sélection. En plus de ça, sur le plan sportif, on le disait, il n'y avait aucun des joueurs qui était en finale du top 14 parce qu'ils avaient besoin de repos. Donc il est allé piocher dans les demi-finalistes, c'est-à-dire des joueurs qui sont peut-être pas les premiers choix. Est-ce que ça a favorisé? Et le fait, et Florian Grill est venu nous le dire ici, l'encadrement sur les dernières années a commencé à diminuer parce qu'on était dans l'autoconfiance et dans l'autonomie des joueurs. Est-ce que ça a favorisé cette dérive? Et au final, la conclusion, est-ce que c'est pas un mal pour un bien.
Oui, c'est un mal pour un bien. Sûrement, tu as raison. Moi, j'étais manager des Barbarians depuis des années. On est passé près de la catastrophe très souvent. C'est difficile de le gérer, d'encadrer. Tu passes à côté des drames.
C'est toi qui fais le chapeau
tout le temps.
Le
problème, c'est que tu peux faire des discours aux joueurs. Tu peux faire les plus beaux discours aux joueurs. Les joueurs sont des hommes quand ils partent à l'étranger et que c'est des chiens fous qui découvrent notre univers. Non, mais c'est la vérité. En plus, en meute. Donc, c'est très difficile. Moi, je vais vous faire les plus gros discours, il est arrivé des semi-catastrophes. Donc, je ne vais pas juger ce qui s'est passé en Argentine, et je n'en suis pas étonné même. Après, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que c'était des joueurs qui n'étaient pas habitués à vivre ces moments-là, dans une euphorie particulière, loin de chez soi, à des milliers de kilomètres.
Fin de saison.
Et que peut-être qu'il y avait des joueurs comme Dupont, mieux encadré, des référents. Je pense qu'on aurait pu peut-être éviter ça, mais je ne suis pas sûr.
Apparemment, en Argentine, pardon, vous le faites. Baptiste Serin, qui était capitaine de la tournée.
Oui, il a été très bon en tant que capitaine.
Il est irréprochable, etc. Il leur a dit certaines choses.
Oui, il leur a dit, il les a prévenus. Oui, bien sûr, il les a mis en garde.
Surtout pour le dernier test. Il y a quand même
ça devait arriver un jour. C'est un électrochoc. Il faut que le rugby se regarde dans la glace. Vous n'avez pas été toujours d'accord dans les dernières émissions, Denis, Christophe, sur les problèmes qu'a le rugby. Mais moi, je suis désolé. Je pense que le rugby a des problèmes. Il faut se regarder dans la glace.
Bien sûr.
Mais
on n'a pas dit ça.
Parce que
on n'a pas dit que.
Non, mais je me souviens. Non, mais c'est surtout que il y a une certaine culture dans le rugby, et faut pas l'ignorer, et que maintenant, il y aura un avant et un après. Et attention, parce que il y a des grenoblois qui vont être en cour d'assises bientôt, sur une histoire à Bordeaux. Donc il faut pas mettre les choses sous le tapis. Vous l'avez dit, le président Florian Grill l'a fait. Il a pas mis les choses sous le tapis. Et il y a des choses. Voilà, qui ne doivent plus arriver.
T'as employé un mot qu'il faut, c'est électrochoc. Je crois que l'électrochoc va faire du bien à tout le monde, du bien aux joueurs.
Est-ce qu'il va toucher, est-ce que tout le rugby français va être concerné? Je pense que l'équipe de France...
Parce que le rugby amateur est concerné aussi.
Je serais malheureux qu'aujourd'hui le monde du rugby ne soit pas concerné, je suis désolé.
En tout cas, il faut que ça commence par en haut, peut-être, pour sensibiliser un peu plus bas. On peut l'espérer, en tout cas, on en a suffisamment parlé dans cette émission. Nous aussi, je pense que sur cette affaire, on va à un moment donné tourner la page, mais c'est important de faire ce débat. Rally nous appelle au 32-16. Bonjour Rally.
Bonjour Christophe, bonjour équipe.
Merci d'être avec nous. Alors tu en penses quoi? Est-ce que la page est totalement tournée?
Oui, pour moi oui, bien sûr. C'est quand même, ça reste une cicatrice, je suis d'accord avec Sarah. On n'est pas habitué avec le rugby, on prône souvent les valeurs. C'est vrai que là, il faudrait que ce soit plutôt encadré, tout supprimer à troisième mi-temps, non, parce que ça fait partie des traditions. En revanche, l'encadrer, oui, pourquoi pas. Après, certes, il y aura une cicatrice, mais il ne faut pas que ça entache, ça n'a pas entaché pour moi l'image du 15 de France. Quand on voit les trois résultats, et comme vous l'avez dit, le débat, l'amour qu'il y a pour le rugby, vous avez vu le Stade de France hier, c'est extraordinaire. Ouais. Trois victoires avec des joueurs avec autant de talent. Après, voilà, ce qui s'est passé en Argentine, bon, voilà, ça reste à l'Argentine, on va dire.
Ça a traversé bien l'Atlantique quand même.
Oui, d'accord. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que Florian Grill a quand même appris de suite et devant. De suite, il a mis le pour éviter que ça prenne de l'ampleur. Mmh. Et bon, vous voyez, ça n'a pas pris autant d'ampleur que ça. On n'a pas trop entendu parler dans la presse, mais moi aussi. Là, lundi, on verra ce qu'il en est au niveau de la justice. Quoi qu'il arrive, il sera quand même passé cette histoire. Ça restera dans l'histoire du 15 de France, mais ça n'entachera pas, l'image pour moi du 15 de France. Surtout qu'avec ces trois derniers matchs, ils ont prouvé que, voilà, qu'au niveau des sportifs, on peut avoir des résultats. Fabien Gatti fait un énorme travail. On est en train d'émerger des jeunes joueurs, Lubien Barré, Gaëton. Enfin, c'est vraiment, on a de très très bons joueurs. Et je crois que voilà, faut pas tout mélanger. Voilà, certes.
Pour toi, Rally, c'est pas grave ce qui s'est passé en Argentine l'été dernier, j'ai l'impression quand même.
Alors, c'est pas que c'est pas grave. Pour l'instant, ils sont présumés innocents. Oui. On a entendu de tout et de rien. C'est-à-dire, Alors, ce que je veux dire, c'est que, je l'ai dit au départ de mon discours, c'est qu'il faut encadrer les sorties. Parce que là, ils sont sortis aller boire des bières jusqu'à.
C'est compliqué d'encadrer une sortie avec 40 joueurs, c'est compliqué quand même.
Mais il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ce sont des joueurs professionnels. Ils ont une image. Ils portent un maillot d'équipe du 15 de France.
C'est pour ça qu'ils ont une image. Ils seront certainement innocents et peut-être qu'il s'est rien passé. Mais rien que quand on voit la vidéo de vidéosurveillance de l'hôtel et que l'autre il baisse son froc dans le couloir, rien que ça, voilà, c'est des comportements qui peuvent plus exister aujourd'hui quand tu représentes l'équipe de France.
Ok, c'est dit. On en a suffisamment débattu dans cette émission. Merci Rally d'être venu au 32-16 pour évidemment apporter ton avis à ce débat. Merci beaucoup Wilfried Templier d'avoir été avec nous. Salut. On se retrouve avec le top 14, hein, avec les Toulouse.
S'il s'endort pas d'ici là,
cet après-midi, mon cher, je tiens à
féliciter là Pierre Thévenet, Wilfried, qui ont bossé jusqu'à 3h du matin, qui sont levés à 6h30, qui ont pris l'avion et qui cet après-midi seront au micro. Bravo. Dans le multiplex. Bravo les garçons. Voilà.
Bravo, même pas de troisième mi-temps. On écoutera du coup.
Et il n'y a pas eu troisième mi-temps hier soir.
Je termine ce débat juste en vous donnant. Pas du tout, jamais. En terminant avec ce chiffre, 6,7 millions de téléspectateurs hier en France Argentine. Ouais. C'était 7,9 millions un samedi soir pour France Nouvelle-Zélande évidemment. Et puis pour, il y a eu beaucoup de comparaisons avec le foot. C'était 5,1 millions pour France Italie dimanche soir dernier. Et donc 6,7 pour ce France Argentine.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34, de retour dans les grandes gueules du sport. Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous composez le 32-16. Beaucoup de débats dans cette émission depuis ce matin, 9h. Si vous voulez réagir, si vous voulez affronter une GG, un seul mot d'ordre, le 32-16. Mais tout de suite, le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah, celui-ci, je l'adore. Vraiment, j'adore ce débat caché parce que forcément, ça va vous faire réagir. Forcément, ça va vous procurer quelque chose. Oui, Christophe a un doute. Je le vois, ça mou. Mais ne fais pas la moue. Faisons l'amour. Car le débat caché du jour, c'est ça.
Ça rime, c'est tout. C'est fantastique.
Le coup franc à suivre pour l'équipe de France. Florent Malouda dans la surface de réparation, c'est frappé, ce ballon, ça tombe, Henri. Et le but. L'équipe de France est bien partie pour aller à la Coupe du Monde, alors que les Irlandais sont en train de se plaindre d'une main. Thierry Henry au deuxième poteau qui récupère la balle, qui la met intelligemment sur William Gallas.
Les Irlandais réclament une main, mais on s'en fout.
Et oui, on s'en fout parce qu'on va aller au Mondial 2010 hein, pour un résultat moins probant, c'est vrai. Mais on y était quand même. Quel moment de l'histoire de l'équipe de France? Alors pourquoi ce débat caché cette semaine?
Quelle est l'accroche?
Mais nous avons célébré les 15 ans de la main de Thierry Henry cette semaine, 15 ans de cette main qui a tant fait parler, une main qui avait provoqué une énorme polémique en Irlande évidemment, mais aussi en France. Thierry Henry accusé de tricheur dans son propre pays. Mais GG, 15 ans après, est-ce que la France a été injuste avec Thierry Henry? Oui ou non? 15 ans après.
C'est ça ton débat. Ouais.
Mais c'est super comme débat caché, ouais, les copains. Vous proposez quoi? On va faire les deux heures de sport.
Pourquoi elle était très injuste avec lui?
Il a quand même été un peu jeté en pâture. Il était un peu seul. Il a quand même pris des leçons. Exactement, il a pris des leçons.
Le sélectionneur et le président de l'époque ont très mal réagi par rapport à Florian Gueil et ce qui s'est passé cet été. Voilà.
Dans une autre mesure, parce que là on parle de sportif, mais Thierry Henry, il a été jeté en voiture, il était tout seul à se défendre sur ce coup-là. Ça, je m'en souviens très bien.
Il a triché.
Mais okay. s'il avait dit que. Le vrai problème de Thierry Henry à cette époque-là, c'est qu'il n'a jamais reconnu. Très peu. Après, ultérieurement, mais pas le
soir même. Sur le moment, il n'a pas reconnu.
Moi, je me suis
Il a dit qu'il l'avait un peu touché de la main.
Pas le soir même.
Ah, si, je te promets. En zone mixte, le soir même, il le dit.
Est-ce qu'on appelle ça?
Il dit quoi? Il le dit. Enfin, il le dit qu'il a touché un petit peu de la main. Oui, c'est un peu aidé, oui.
Il y en a un autre qui a touché de la main, il s'appelle Maradona. Hein.
Oui, mais pourtant, lui, il a dit c'est Dieu, lui.
Oui, c'est la main de Dieu.
Le contexte, c'est un autre pays, c'est une autre culture.
Ouais.
Et ils en ont glorifié et ils l'ont mis sur un piédestal. Parce que, voilà, il faut prendre en compte plein de choses.
Juste après le match, il avait avoué avoir fait une main, mais affirmé qu'il n'était pas l'arbitre. Voilà ce que je
veux dire.
Le problème qui s'est passé avec Henry, maintenant, je me souviens bien, c'est qu'il a réconforté quand même les adversaires.
Ça, c'est vrai.
Après le match, il avait réconforté les
Irlandais.
Vous parlez de la main, mais c'est pas la main le problème. C'est qu'il allait réconforter les mecs qu'il a tués.
Le problème, c'est ce que dit Christophe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait une faute, si elle n'est pas sanctionnée, nous, on joue l'arbitre au tennis.
Mais non,
je vais pas rendre.
Moi, je veux bien qu'on fasse l'histoire. mais à l'époque,
oh, mais plus en France, qualification.
Oui, au tout début, tous très heureux de la qualification, et puis après, tous, oh là là, c'est pas bien, on a triché, oui. Regardez ouais, ce qu'a fait Thierry Henry.
On est donneurs de leçons de quoi, enfin,
oui, il y a beaucoup de politiques qui s'en sont mêlés, etc.
Ben, oui, parce que je pense qu'à l'époque, le président et le sélectionneur n'ont pas fait le job, et c'était annonciateur de la catastrophe qui allait se passer
en Afrique du Sud, ici. À Naïsna.
Voilà. Ouais, ça aurait évité Naïsna.
Mais bon. Non, mais j'aime bien la phrase que t'as ressortie, Christophe, et il a raison de le dire, Thierry Henry, il va pas s'auto-flageller, dire, au fait, j'ai fait une main là, vous me sanctionnez
mais
pas.
Mais c'est pas la main. C'est le comportement après ça.
Mais on s'en fiche, le match est terminé.
Fous, moi, non,
bah oui, non
pas.
Après.
Non non, je m'en fous pas moi.
Alors tu alors.
Non non non,
alors,
je veux pas.
Alors, sur le coup,
les rugbyman, tu diminues les troisième mi-temps et ce qui se passe alors que le coup de sifflet final est terminé.
Tu vas surtout pas relever les Irlandais quand même. Je suis désolé. Non mais c'est une qualification, c'est pas un match amical.
Ça avait fait un scandale, je me rappelle.
Mais oui,
Irlande, en Irlande, c'était devenu une affaire d'État. Ils voulaient presque rappeler l'ambassadeur d'Irlande en France.
Mais ça dépasse,
dans la presse irlandaise, on avait été taxé de tricheur. C'est vrai que ça avait pris une ampleur considérable. Mais ça aurait été mieux qu'on puisse se remémorer un peu ce qui s'était passé. Parce que là, c'est un peu vieux quand même, 15 ans.
Moi, je suis surtout pas la mémoire. C'est,
bah,
c'est
ça commence un peu à partir en brillant.
C'est encore tout frais. Et c'est vrai que ce qu'il y avait. Frais, ouais. Ce qu'il y avait...
Tu vois, c'est donc une.
On pourrait aussi revenir, pourquoi pas, sur l'arbitre, monsieur Foot, qui siffle un pénalty contre l'équipe de France pour la qualification à la Coupe du Monde 78. Ça. Est-ce que ça peut être un scandale avec Thierry Roland qui traite l'arbitre de salaud? Revenons sur ces grandes histoires. Moi, je vous le dis.
Oui, mais c'est vrai que
tu t'en rappelles pas de ça.
Si, je m'en souviens très bien. Alors... Je t'avais écouté, tu présentais déjà les grandes gueules du sport. Donc, c'est dire si je m'en souviens bien.
Ça n'existait pas, c'était Radio Monte Carlo.
Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, avec cette main, est-ce que la France est capable de dire, peu importe. Non, mais les copains, écoutez-moi. Est-ce qu'on est capable de se dire, peu importe maintenant comment on gagne, on a eu cette main. Beaucoup de gens sont tombés sur Thierry Henry pour avoir triché. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de voir l'histoire différemment et de se dire, écoutez, on a gagné, l'arbitre l'a pas vu, tant pis, quoi. Et je parle pas du VAR, hein, parce que forcément, aujourd'hui, cette main ne pourrait pas avoir lieu. Mais est-ce que maintenant, on a une mentalité un peu différente? Parce qu'en Argentine, la main de Dieu, il n'y a aucun problème, Maradona n'était pas un tricheur. Hein.
Ouais, mais il y avait un contexte différent avec les Anglais, pardon.
Sortaient de la guerre des Malouines.
Ouais.
Je sais pas, c'est des faits de jeu, en fait.
Ouais, c'est...
C'est des faits de jeu.
Ça se fait sous l'espace de quelques instants. Enfin, je veux dire, c'est pas. On a arrêté le jeu. On a revu la vidéo et il y a de l'interprétation. Enfin, je veux dire, ça a été l'arbitrage qui a été fait de manière spontanée et sur le moment. Donc, enfin, moi, je.
Il y a des exemples quand même de grands sportifs. Jusqu'en rugby, il y avait un Néo-Zélandais un jour qui est allé voir l'arbitre en disant j'ai pas aplati. Et je parle, il y a 20 ans hein, et qui a dit l'essai n'est pas bon. Il avait été refusé. Donc ça dépend aussi de la personnalité de l'individu, je suis désolé. Vous pouvez très bien penser que Thierry Henry, il va voir l'arbitre, il dit j'ai fait une main.
Est-ce que vous pensez qu'il l'a payé en termes d'affection, en termes d'image et du public français? Parce que il est quand même Thierry Henry, il est clivant.
Oui, mais c'est lui qui est comme ça.
Oui, mais est-ce que ça,
ce fait-là,
oui, mais est-ce que ça a accentué?
Il a adoré. Parce que derrière, il continue à jouer Arsenal, il est consultant dans une grande chaîne anglaise, il est adoré, il est adulé.
Mais il portait le maillot de l'équipe de France, tu vois. Est-ce que ce fait-là a pu avoir une incidence sur sa notoriété en France?
Immédiatement.
Il n'a pas été accepté facilement en tant qu'entraîneur en France.
Je me souviens, en Espagne, il jouait à ce moment-là au FC Barcelone. Le match après, il entre sur la pelouche du Camp Nou, son propre stade, et il se fait siffler par le public.
Ouais,
après cette main, il y a
même
des marques qui avaient un temps envisagé de se séparer de lui par rapport à l'image de tricheur que ça pouvait véhiculer.
Le problème après, ça a été c'est la communication autour de cet événement. C'est à lui, on se souvient plus, mais s'il avait communiqué différemment avec l'appui de la fédération, du président et du sélectionneur, je pense que ça aurait été.
C'était retrouvé un peu tout seul au milieu du
jeu. Non, mais il était tout seul.
Bien dans un autre pays, il aurait été vu comme le sauveur.
Oui, mais c'est pas la mentalité française.
Il aurait été vu comme le sauveur.
C'est ce que je t'ai dit.
Allez. Nous, on est très donneurs de leçons. Hein.
Oui.
On est très donneurs de leçons. Donc, oui, forcément. Au début, on est tous contents parce qu'on est qualifiés. Et puis après, on a une forme de remords. Mais entre-temps, c'est nous qui sommes partis à la Coupe du Monde. Voilà.
Et on se souvient du destin, malheureusement.
Et comme quoi, le sport fait bien les choses. Voilà.
Exactement. Voilà.
On a été punis. Et c'est pas mal pour un bien.
Ok, très bien, les copains. Bon, sachez que dans 5 ans, dans les grandes gueules du sport, on fêtera les 20 ans de la main de Thierry Henry. Je vous reproposerai.
Il sera là le mieux.
Très bien qu'on aille revoir les images et qu'on aille relire les articles.
Si, Christophe sera là.
Dans 20 ans?
Non, dans 5 ans.
Dans 5 ans. Je sais pas.
C'est limite. Hein.
J'espère. Moi, je me calque ouais. sur Denis.
Mais bon. Enfin, non, moi, je serais plus là. J'espère, mais quel faux cul.
Non, tu m'as pas laissé terminer. J'espère que je ne serai plus là.
Ah, oui.
11h43, on se retrouve dans quelques instants.
Le journal de TF1. Récupérer la place, ça rentre à revenir.
Le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour. Vous venez lui dire en face. À tout de suite sur RMC, on vous attend.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46, de retour dans les grandes gueules du sport avec Sarah Pitkowski, Julien Beneteau, Denis Charvet, Christophe Cessieux ce matin à partir de midi. Restez bien avec nous. La Dream Team des Paris sera là au rendez-vous pour vous parler des matchs de Ligue 1, notamment, mais également de Top 14. On débutera avec Lens-Marseille cet après-midi. Ce sera à vivre sur RMC. On vous donnera toutes les meilleures cotes, évidemment. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC. Les grandes gueules du sport et vous.
Philippe nous appelle au 32-16. Bonjour Philippe.
Salut Jean-Christophe, salut l'équipe.
Merci d'être avec nous, mon cher Allez, Philippe. Bon tu Christophe. Vas affronter qui ce matin?
On dira bonjour en fonction de qui tu vas solliciter.
L'ancêtre.
Je vais m'attaquer à Christophe.
Je le savais.
On a le sujet. Quel est le sujet, Philippe?
Ah, sur les légendes.
Ah,
sur
une légende. Peut-elle réussir sa sortie? Écoutez ce que disait Christophe Cessieux.
Le problème des sportifs de haut niveau, c'est qu'ils ont toujours l'impression qu'il va y avoir une dernière danse fabuleuse et qu'ils vont rester toujours au sommet de ce qu'ils sont. Et ils sont toujours poussés à aller jusqu'au bout, faire le comeback de trop ou faire le comeback de trop. Il y en a tellement qui ont fait le comeback de trop.
Christophe, Philippe, Christophe est à toi.
Ouais, vas-y, viens Philippe. Vas-y. Ouais. Vas-y, mets les gants là.
Alors, il y a Sarah qui a dit un truc qui était très juste. Alors, je suis souvent d'accord avec Sarah d'ailleurs, mais qui disait qui sommes-nous pour juger du moment où les sportifs doivent arrêter. Franchement, je pense que c'est grandement en lien avec la motivation qu'ils peuvent avoir. Et que chacun a une motivation différente. Le choix de la sortie, il y en a aussi pas mal qui n'ont pas le choix de leur sortie. Hein, si on parle des blessures, si on parle du désir à vouloir encore s'arracher tous les matins pour continuer à être performant. Et moi, ça m'a posé d'ailleurs une autre question de la reconversion. Je pense que c'est très lié peut-être à l'absence de reconversion qui sont proposées aux sportifs, qui fait que cette sortie, elle est très compliquée.
Les légendes, Philippe, ont souvent quand même des propositions derrière.
Ce qui veut pas dire qu'ils ne sont pas des positifs derrière.
Nadal, non, bien sûr. Je pense que Nadal a déjà un projet bien en place, il a déjà ses entreprises. Quand t'es une légende, c'est plus facile, évidemment.
C'est plus juste
quand
t'es une histoire
un sportif lambda, c'est plus compliqué. Il faut
assurer sa reconversion. Ce qu'il faut aussi... Il faut aussi comprendre, c'est que bien sûr qu'il y a des sportifs qui ont déjà des investissements et qui le pensent avant, mais Nadal, c'était un fou de tennis, un passionné de tennis. Ouais. Il aimait jouer, il aimait le jeu. Donc en fait, il le disait.
Mais il paraît qu'il aime autant le golf que le tennis.
Et ben, il
est zéro au golf.
Ouais.
Scratch.
Oui. Mais je veux dire, tu peux aussi être en amour pour ton sport et avoir envie de continuer parce que les émotions que ça procure, elles sont au-dessus de tout.
Je ne juge pas la sortie des uns et des autres. Je dis juste qu'il y en a certains qui ont fait une sortie par le haut et d'autres un peu moins par le haut. Mais après, chacun fait comme il peut, hein, Philippe.
Exactement. Chacun fait comme il peut.
Philippe.
C'est vrai que j'ai élargi le débat au-delà des légendes. Mais c'est vrai que les légendes ont peu importe leur sortie. Je repensais à Blanco, à Maradona, à Pelé, et je me dis 20 ans après, de toute façon, est-ce qu'on se souvient réellement de leur sortie?
Tu as raison, Philippe, franchement,
c'est à dire que dans 5 ans et même tout de suite on se souvient de Nadal et de tout ce qu'il a fait plutôt que sa sortie. Mais en revanche, c'est une vraie question, et c'est pour ça qu'on voulait faire ce débat dans les grandes gueules du sport. C'est une vraie question pour le sportif en question, à savoir quand je m'arrête, quand je continue. Ça, forcément, les questions, les les sportifs de haut niveau et qui plus est les légendes se posent la question parce qu'ils veulent laisser une empreinte différente.
Oui,
et
puis c'est la peur d'arrêter aussi. C'est la peur de plus être, d'abandonner sa première carapace, je veux dire, et puis de se réincarner. Ouais. Il y a plein de.
Après moi, il y a un autre truc qui m'a pas choqué, mais sur la sortie de Nadal et la sortie des grands champions, c'est qu'on a l'impression qu'on assiste à leurs obsèques quand même. Hein.
Surtout avec Federer. Hein.
C'est quelque chose d'hallucinant. Les gens pleurent. Les discours des uns et des autres, il a été fabuleux, le mec voilà est rayé quoi, il n'existe plus, on le met dans une petite caisse et ça m'a un peu choqué l'autre jour. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi,
mais c'est aussi parce que
c'est un vocabulaire d'obsèques.
Oui, mais la fin de carrière,
les psychologues associent la fin de carrière à des mots mortuaires.
Oui, oui, mortuaires.
C'est loin d'être anodin. Ouais. Si c'est utilisé depuis la nuit des temps, c'est qu'il y a une bonne raison.
Rends-toi compte quand tu arrêteras les grandes gueules du sport, ce qu'on sera capable de faire.
Voilà, justement,
résumer ta carrière, c'est incroyable. Cyril nous appelle également au 32-16. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Cyril, bonjour.
Bonjour l'équipe. Merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Cyril, tu veux affronter qui?
Moi, c'est Julien.
Julien, sur quel sujet?
Le sujet du PSG, parce que j'avais quelques désaccords et j'entends qu'avec son cœur de Marseillais, il a des...
Très objectif. Le débat, c'était sur les propos de Nasser Al-Khelaïfi qui a dit quoi qu'il arrive, même si on est sorti en Ligue des Champions, Luis Enrique restera. Julien Benneteau, tout à l'heure. Bien.
C'est cohérent par rapport à ce qu'il va leur mettre en place. En revanche, je n'y crois pas et je n'y achète pas pour plusieurs raisons.
C'est paradoxal, ton discours.
Je ne comprends pas.
Mais si.
Pourquoi ils le feraient avec Luis Enrique et pourquoi ils ne l'ont pas fait avec Ancelotti?
Ok, Cyril, Julien est à toi.
Julien, tu n'as pas la réponse, mais en fait, elle est toute simple. Pourtant, c'est qu'Ancelotti, c'est le début du projet. Ils sont tout fous. Comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, on était sur une idée du starisme et des étoiles au Paris. Et aujourd'hui, ils ont bien compris. Ils ont appris avec le temps. Ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, qu'autour de jeunes, comme ils ont fait, Désiré Doué, Vitinha, Barcola, enfin voilà, j'en passais des verres. Même Ramos, l'attaquant qui est tout jeune, eh bien, faut garder ce coach-là. Et ils garderont, même si, comme contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, ils se font sortir en Ligue des Champions. Parce que moi, je pense qu'on ne passera pas en Ligue des Champions, puisqu'accessoirement, aujourd'hui, nous ne sommes pas qualifiés. Et il nous reste Manchester et le Bayern. Donc, il ne faut peut-être pas rêver non plus. Il y a un moment donné où il faut admettre qu'on a le droit, nous aussi, à une erreur. En l'espace de 12 ans, ce serait la seule et unique fois qu'on serait sorti en Ligue des Champions. Donc, c'est excusable et je pense que les Qataris l'ont compris et qu'il faut garder Luis Enrique, qu'ils garderont.
Julien, tu peux répondre.
Et j'entends parti. Que ça te blesse. Peut-être un peu.
Non, ça me blesse pas du tout. J'aimerais avoir des certitudes comme toi tu les as sur le PSG. Si tu me dis qu'ils ont changé et que s'ils ne passent pas en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils ne se qualifient pas après cette première phase, alors que moi je pense qu'ils vont se qualifier, et je parlais d'une défaite éventuellement en huitième de finale. Si tu me dis que malgré la défaite au premier tour, ils vont quand même garder Luis Enrique pour s'inscrire dans la durée. Pourquoi pas? Aujourd'hui, j'en suis pas convaincu, mais ça me blesse pas du tout qu'on pense différemment, ou ça me blesse pas si le président le garde. C'est un peu le cadet de mes soucis, mais je suis pas sûr. Après, est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas? Je suis pas spécialiste et devin. S'ils arrivent à s'inscrire dans la durée, pourquoi pas? En revanche, une chose est sûre, c'est que même s'ils s'inscrivent dans la durée, il va falloir que Luis Enrique en Ligue des Champions fasse mieux que ses prédécesseurs, je pense, c'est tout.
Ok, merci Cyril d'avoir débattu avec nous dans les grandes gueules du sport. Je sens que Denis était très bouillant, chaud sur le sujet.
Il est contrarié par Cyril. Il veut garder Luis Enrique lui, à tout prix. Donc.
Et alors, pourquoi pas?
Mais c'est bien, mais
attends,
il fait du bon travail.
T'es le premier à brûler le PSG quand il change tous les ans ou tous les deux ans, et quand enfin le PSG veut le garder, non. Tu te dis bah non, mais c'est une mauvaise chose. Faut savoir.
Ah bon, parce qu'on joue bien au PSG en ce moment?
En Ligue 1, oui.
Oui, cacahuète, c'est une girouette.
Non, c'est pas girouette. En fait. Moi, j'ai toujours pensé que voilà, il y a.
Je sais pas. T'as toujours pensé qu'il fallait pas virer.
Luis Enrique
il veut pas des stars. C'est les grands joueurs qui font gagner les grandes équipes. Lui, il veut gagner sans les grands joueurs. Moi, je veux bien. On verra.
Après, il a gagné avec Neymar, Luis Suarez.
Ah oui, il a gagné Neymar. Non, il a gagné surtout avec Messi et Neymar. Oui.
Bah oui.
Bah il les a eu Neymar et Messi.
Donc il sait ce que c'est de gagner quand même.
Et là, il en veut plus.
Il y en aura peut-être d'autres, des Messi et des Neymar. Okay. Bon, merci Cyril d'avoir été avec nous. Merci mon cher Denis. Toujours un plaisir de te retrouver samedi matin.
Je reste pas, tu le sais.
Oui, pour les paris RMC. Oui, oui,
c'est pas une blague.
Non, t'es libéré.
C'est pas une blague.
Et je t'aime très fort. Julien Benneteau, merci beaucoup.
Merci
Sarah Pitkowski, merci
bon
Christophe samedi. Également. Sarah, on se retrouve demain pour les grandes gueules du sport. Il y aura Pascal Duprat, Jérôme Pinault et Cyril Linet. Soyez bien présents au rendez-vous à partir de 9h. Bon week-end donc, Christophe et Denis. Merci
bon
de nous avoir
fait vibrer
avec le 15 de France.
Essayez de faire une belle émission sans nous, ça va être dur quand même.
Promis, à partir de demain, on sera au rendez-vous 9h du matin. Les paris RMC dans quelques instants autour notamment de Lens-Marseille. Allez, à tout de suite.